Bienvenue à tous à cet événement qui, je le pense, à la lumière des différents aspects de la situation actuelle à l'intérieur des États-Unis et globalement, ce sera un événement remarquable. Je devrais commencer par mentionner que dans l'Ouest, la tradition est que quand quelqu'un fête son anniversaire, il reçoive des cadeaux. Mais M. LaRouche n'a jamais été quelqu'un qui nécessairement a fait partie des normes. Donc aujourd'hui, c'est son anniversaire. M. LaRouche a décidé de marquer ce jour pour profiter de cet événement pour donner un cadeau à tout le monde, non seulement avec la présentation qu'il nous fera, mais avec la production de son dernier récit que vous pourrez trouver sur le site LaRouche PAC et sur le site de l'EIR, www.larouchepac.com. Et ce soir peut déterminer la direction que prendra la civilisation dans les prochaines générations. C'est un moment très critique. C'était il y a des mois maintenant que M. LaRouche a déclaré la guerre à Barack Obama et sa réforme soi-disant de la santé, la dénonçant comme une politique nazie. À ce moment-là, personne ne pensait qu'il n'y aurait pas du tout de combat contre cette réforme de la santé. Et aujourd'hui, on a vraiment une vision différente de ce qui s'est passé. Et ce combat a été catalysé par M. LaRouche. Dans une conférence comme celle-ci, mais bien avant cela encore, plus de 2 ans maintenant, M. LaRouche a rendu clair que ce à quoi nous devions faire face aux États-Unis et globalement était une crise d'effondrement systémique de proportions sans précédent. Et aujourd'hui, nous voyons la manifestation immédiate de cette rupture. Et peu importe la façon dont pensent les gens sur ce qui se passe aujourd'hui, ce que M. LaRouche a dit dans les différentes conférences Internet précédentes, c'est que réellement, le cœur de la tempête, aujourd'hui, est en train de se déplacer sur les terres. Et le pire est à venir dans les temps qui viennent. À la fin septembre, début octobre, et on doit se rejoindre, se rassembler, discuter de ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire maintenant avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça qui fait le contenu de l'essai que M. LaRouche vient de publier sur son site. C'est un cadeau qu'il nous a donné à tous. Donc, je ne vais pas en rajouter dans cette introduction. Je vais demander de me joindre et accueillir M. LaRouche et lui souhaiter un bon anniversaire.
Thank you.
Merci.
Well, I can promise you a lot of bad news.
Je peux vous promettre beaucoup de mauvaises nouvelles. Et je sais que vous voudriez les entendre. Quelles sont les mauvaises nouvelles? Quelles sont-elles? Dans la jungle qui nous entoure, et quelles sont les chances pour les changer? Nous sommes à la fin d'une chose où demain le soi-disant président des États-Unis va s'adresser à une session conjointe du Congrès et du Sénat. Et peut-être que les gens vont se sentir comme après avoir fumé de la marijuana demain. Ce président est une blague qui se joue des citoyens américains avec beaucoup d'argent de la drogue derrière lui, malheureusement. Et il n'a jamais eu l'intention de devenir compétent. D'ailleurs, il est totalement incompétent. Ce n'est pas un intellectuel. C'est quelqu'un qui est capable de faire blabla. Et même quand il fait blabla, il ne comprend pas le blabla qu'il avait préparé de dire. Mais c'est le président élu des États-Unis. Et on ne peut pas faire un coup contre ce président. Il y a trop de dangers, de menaces, de coups d'État autour de la situation aux États-Unis pour changer ce gouvernement, pour défaire même le gouvernement américain. Aujourd'hui même, certains intérêts à Londres et aux États-Unis avaient mis en place ce qu'on a connu sous le nom du 11 septembre. C'était une opération anglo-saoudienne dirigée contre les États-Unis, certes avec certains alliés à l'intérieur même des États-Unis. Ça a été financé, c'est un fait, par les anglo-saoudiens et leur réseau, avec l'ambassadeur saoudien aux États-Unis qui était dans la confidence et a préparé et participé à ce qu'on a connu sous le nom de 11 septembre. Et toutes les investigations qui ont été laissées et faites ont été bloquées, toujours et toujours bloquées. Donc il faut regarder au bon endroit pour trouver la solution. Et c'est là. C'est venu d'une alliance entre l'Arabie Saoudite et Londres, qui ont financé et planifié l'opération dans son ensemble. Et l'ambassadeur saoudien à cette époque-là a été une personne clé pour mettre en place cette opération. Et ces informations étaient accessibles aux membres compétents du gouvernement américain à ce moment-là, mais ça a été mis de côté. Et quelque chose d'autre a été fait à la place. Et l'intention était de détruire les États-Unis de l'intérieur. Vous avez un idiot qui sortait d'une cure de désintoxication due à la cocaïne, il s'appelait, qui avait même pas fait son service militaire au Vietnam, parce qu'il avait été coopté à l'époque pour ne pas faire son service. Et sa famille, la famille Bush, l'a poussé à s'engager là où il n'y avait pas de danger. Donc il a continué à prendre de la il a continué à prendre de la cocaïne sans arrêt. Puis après, il était envoyé dans un autre état, il était supervisé alors qu'il était toujours sous cocaïne d'addiction à la cocaïne. Il a subi des cures successivement, mais ça ne marchait jamais. Donc on avait un drogué à la cocaïne comme président des États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'était rien du tout. Il n'avait pas de cerveau. Et son père, d'ailleurs, n'était pas non plus beaucoup d'esprit, mais celui qui avait usé tout l'esprit de la famille, c'était le grand-père qui avait, lui, financé en masse la mise en place du parti nazi en Allemagne à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, ces intérêts-là ont fait la même chose. Et après deux mandats de cet idiot, on a eu l'administration Obama. Et le fait, et quand Obama était en campagne, en fait, il a fait campagne contre l'exécutif unitaire. Il a dit, voilà, on ne prendra pas de décision unilatérale comme l'a fait George Bush, et je vais me battre contre ça, mais il a commencé à le faire. Donc tout ça a commencé après notre incendie du Reichstag. Et la crise est venue, il est allé embrasser le postérieur des Britanniques. Et c'est là, aujourd'hui, on a cette mise en place de ce qu'on appelle des décisions unilatérales du président des États-Unis, sans consultation du Congrès. Et ça, ça a été lancé dès le moment où le 11 septembre a eu lieu. On est passé sous un régime dictatorial. Et le Congrès n'avait plus du tout de pouvoir législatif pour contrôler le président. Et notre système de gouvernement est devenu un système dictatorial. Et le Congrès n'avait plus le droit de vote la plupart du temps. Si le président décide de faire passer ses lois de manière unilatérale, avec cette loi de l'exécutif unitaire, unilatéral. Et aujourd'hui, on a une situation de dictature aux États-Unis. Et nos différents présidents s'en rendent pas compte parce qu'ils sont traînés comme des singes à répéter ce qu'on leur dit de répéter. Mais il est toujours le président aujourd'hui. Nous, aux États-Unis, nous sommes plus intelligents que de simplement faire un coup d'État ou assassiner un président pour le changer. On a des gens qui ont su le faire, en fait, contre notre gouvernement, comme l'assassinat de Lincoln, de McKinley en 1901, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et pourquoi ils l'ont tué, Kennedy, par exemple? Il y avait deux points sur lesquels il était haï par la clique de Wall Street et la clique de Londres. Numéro un, la question du conflit de l'industrie de l'acier. Il voulait défendre l'industrie de l'acier aux États-Unis. Et il s'est accroché à ça. Et il voulait continuer à développer l'industrie métallurgique. Deuxièmement, il s'est opposé à la clique de Wall Street en particulier d'aller en guerre en Indochine alors qu'il était président. Et pour ça, il est mort. Un assassinat qui a été dégiré depuis l'Europe, en particulier l'Espagne, et des gens qui ont passé la frontière mexicaine pour venir faire le sale boulot ici aux États-Unis. Mais pourquoi a-t-il été tué? La raison évidente qu'on a pu découvrir après sa mort, et Johnson l'a lui-même avoué, le président Johnson, il était totalement paniqué de voir les revolvers qui avaient tué Kennedy se braquer sur sa temple à son tour. Et quand Kennedy a fait ce qu'il a fait, et c'était sous les conseils de l'ancien général MacArthur et l'ancien président Eisenhower, se sont opposés à ce que les États-Unis ne s'engagent dans aucune guerre et non surtout pas en Indochine. Et la politique de général MacArthur et de Eisenhower était celle qu'a adaptée Kennedy. Et c'était la politique qui était simple, c'était pas de guerre, d'invasion sur des terres étrangères. On ne va pas amener la guerre en Asie. C'est pas parce que la culture asiatique n'est pas la même que la culture européenne qu'on va leur faire la guerre. Parce que si on fait ça, on se met sous le contrôle de l'impérialisme et le colonialisme britannique. Et si vous avez des conflits associés avec les Européens, les guerres contre l'Asie en particulier, en Indonésie, et c'est ça qu'on a eu à l'époque. Et les Britanniques étaient ravis que nous nous engagions dans ces guerres partout à l'échelle de la planète. Et c'est comme ça qu'ils dirigent le monde. C'est comme ça que l'Empire britannique dirige le monde à travers la guerre irrégulière. Il contrôle le pouvoir, induisant les pays d'Europe stupides à s'engager dans des guerres les unes contre les autres. Et les nations dirigeantes d'Europe Et même les nations principales d'Europe sont entrées en guerre les unes contre les autres pendant des années sous contrôle britannique. Et en 1763, en février, au traité de Paris, l'Empire britannique a été déclaré officiellement par la Compagnie britannique des Indes orientales. Et elle a pris possession du Royaume-Uni et a dirigé jusqu'à aujourd'hui ce système impérial dans lequel on vit. Mais le principe a toujours resté le même depuis 1763 jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul type d'empire que nous connaissons dans toute l'histoire européenne. Les empires européens ont toujours été basés sur la destruction de la Grèce par elle-même dans les guerres du Péloponnèse à l'époque, avec des intérêts monétaires qui avaient mis en guerre Corinthe, la Grèce, Syracuse, qui s'autodétruisaient. Et ces forces combinées, ensuite, après avoir réussi la destruction, sont allées en guerre contre Syracuse, à l'époque, qui était l'autre ville développée. C'était à l'époque une puissance qui venait d'Asie, ce qu'on appelait le culte de Delphes, sur lequel elle créait la notion d'un empereur avec des accords spéciaux, l'Empire romain, ce qui est devenu l'Empire romain, comme Auguste César. Pendant tout ce processus, le monde a été dirigé par un empire. Depuis cette époque-là, depuis l'époque de l'empire maritime en Asie, et même avant déjà cette époque-là, l'idée d'empire vient de l'Asie et pas de l'Europe à l'origine. Et ça a été introduit en Europe justement par tout ce processus via la Grèce, la guerre du Péloponnèse, comme véhicule pour insérer cette idée d'empire. Et après, on avait un empire à caractère maritime dans la mer Méditerranée, qui s'est répandu dans l'océan Atlantique. Un pouvoir maritime qui contrôlait l'utilisation de la monnaie. Et la base de ce pouvoir était l'argent. Il contrôlait l'argent comme forme d'impérialisme. Tout l'impérialisme européen, incluant l'impérialisme britannique aujourd'hui, n'a jamais été fait sur la base d'un contrôle des terres. Ça a été fait sur la base d'une organisation internationale du contrôle de l'argent. Et cet argent est contrôlé par des intérêts privés, qui forment des consortiums d'intérêts privés et qui s'abrogent le droit de battre l'argent. Et les nations sont des subsidiaires justement à cette élite qui contrôle l'argent. Et l'Empire britannique, qui est né de ce processus-là, n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas un empire des citoyens britanniques, c'est un empire d'un consortium d'intérêts financiers privés qui contrôle par l'argent pour contrôler les nations. Et il y a un cas où ça n'a pas pu marcher, c'est au moment de la naissance des États-Unis. Parce que les États-Unis, depuis le courant du XVIIe siècle, a été créé par une colonisation de la Nouvelle-Angleterre et ensuite la baie du Massachusetts. Ça a été la pierre angulaire de ce qui a été la création des États-Unis. Et ces gens qui sont venus sur le Mayflower, dans la baie du Massachusetts, ce n'est pas simplement des gens qui parlaient anglais, c'était des différentes zones d'Europe, parce qu'ils ont vu à l'époque que l'Europe, c'était fini. La corruption de l'Europe est tellement poussée qu'ils ne pourraient pas résoudre le problème sur le territoire européen. Et comme l'avait prescrit Nicolas de Cuse déjà au XVe siècle, il fallait traverser l'océan pour amener le meilleur de la culture européenne sur une nouvelle terre et former une nouvelle civilisation qui serait libérée de l'impérialisme, de l'oligarchie. Et ça a commencé dans cette forme-là au Massachusetts. On a eu différents systèmes alternatifs, dont le système de crédit qui était mis en place au milieu du XVIIe siècle au Massachusetts par un système de papier-monnaie, puis repris plus tard par Benjamin Franklin, qui est devenu la pierre angulaire de la Constitution américaine. Dans la Constitution américaine, vous ne trouvez aucune référence à un système monétaire, si ce n'est dans le système de la réserve fédérale actuelle, qui a été un acte de trahison contre notre propre Constitution. Et aujourd'hui, on est plongé dans le système de monétaire international et on n'a plus notre système de crédit. Et ça, c'est crucial pour nous aujourd'hui, si on veut réussir. Notre Constitution, nous ne sommes pas un système monétaire. Et on n'est pas des sujets de ce système monétaire. Nous sommes un système de crédit, comme la Constitution le définit clairement. Et ça, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière cette Constitution. La seule autorisation pour faire circuler de l'argent à l'intérieur des États-Unis ou avec d'autres nations respectables est un acte de l'État. Pas des intérêts financiers privés monétaires, des complexes financiers ou autres. Et cette question de la dette est cruciale. Notre dette doit être une décision de notre gouvernement ou avec des traités avec d'autres nations, de nation à nation et des accords entre elles. Ça, c'est le principe qu'on doit appliquer si on veut sauver la civilisation maintenant. On arrive aujourd'hui au moins où le système monétaire, système monétariste, basé sur ces financiers internationaux privés, c'est pas des nations. Ils appellent ça le libre-échange. Qu'est-ce que ça veut dire, le libre-échange? Ça veut dire libre de tout contrôle gouvernemental. C'est-à-dire que c'est un gouvernement planétaire de financiers privés comme un consortium d'intérêts monétaires. Donc ça a toujours été la question fondamentale. Ça a été la question à la suite de la mort de Roosevelt. Le 12 avril 1945, les États-Unis avaient opéré jusqu'alors avec un système de crédit. Et on voulait à l'époque mettre même en place un système de crédit au niveau international, avec des accords entre États pour un système de crédit international utilisant le pouvoir, tout ce qu'on avait utilisé pour faire le militaire, pour utiliser et produire des biens pour libérer les gens du colonialisme. Et on a réorganisé l'Europe sur la base de ce système de crédit à l'époque, qui était l'intention explicite de Franklin Delano Roosevelt à l'époque, à ce qu'on appelait la conférence très célèbre de Bretton Woods. On avait rejeté Keynes. On l'avait attaqué et rejeté. Keynes représentait le système impérial monétaire britannique. Et on doit se libérer de ça pour toujours. Et d'avoir un système d'État-nation souverain avec des partenariats sous la base de systèmes de crédit et de coopération. Mais le jour où Roosevelt est mort, son successeur, Harry S. Truman, c'est un S-man. Et il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et les États-Unis ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire depuis cette époque-là. On avait réétabli l'influence des États-Unis dans le monde malgré le système international monétariste. Et les États-Unis avaient été également à l'époque les victimes de cette clique de financiers internationaux parce qu'elle ne contrôlait plus son argent. Pour les États-Unis, seuls des États-nations souverains peuvent coopérer avec nous et devraient avoir le pouvoir de se développer par eux-mêmes. Prenons par exemple aujourd'hui, en été 2007, Le 27 juillet 2007, j'ai mis et dit la politique qu'il faudrait mettre en place pour éviter une rupture globale du système financier, la mise en place du système américain, et qu'on devait prendre certaines mesures. Les banques étaient en banqueroute. Donc nous devions organiser un processus d'organisation de banqueroute utilisant le pouvoir de la gouvernement fédéral pour déclarer la banqueroute, et en particulier sur la question des hypothèques, pour permettre aux gens de rester dans les résidences qu'ils occupaient alors, et protéger également les banques qui étaient à l'époque et encore aujourd'hui en banqueroute par le standard de Glass-Steagall, la séparation de la banque d'épargne et des banques d'affaires. Et il y a eu un grand soutien de cette loi qu'on appelait le HBPA à l'intérieur des États-Unis. Et si ça avait été introduit, cette loi, ça a été introduit à différents niveaux, local, la population, certaines institutions au niveau des États. Mais si ça avait été fait à l'époque au niveau national, on ne serait pas dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Et en septembre 2007, Barney Frank, qui n'est pas vraiment une personne très humaniste, et Chris Dodd ont fait un accord pour bloquer la loi de protection des banques et des propriétaires que j'avais proposée. Et si ça avait été mis en place, on ne serait pas dans le fiasco dans lequel on est aujourd'hui. Pourquoi Chris Dodd et Barney Frank, et franchement, il est vraiment spécial, pourquoi ces gars-là sont devenus l'instrument dans le Congrès pour détruire les États-Unis en bloquant ce type de réforme? Et ce qui est venu clair, en fait, en 2008, c'est qu'ils ont soutenu le processus de renflouement. On avait tous les gens de Wall Street et tous les autres financiers internationaux à travers le monde qui, à ce moment-là, étaient en banqueroute. C'était un problème fondamental ici. Et au lieu de mettre ces choses-là en banqueroute organisée, on les a renflouées. Les banquiers du monde, aux dépens des citoyens américains. Et aujourd'hui, à cause des milliers de milliards de dettes qu'on en a créées dans ces plans de renflouement, de l'administration Bush, de l'administration Obama aujourd'hui, on n'a plus aucun moyen pour faire face aux besoins de notre population. Et on est engagé dans un processus de destruction dans les mois qui ont passé, dans les mois qui viennent, depuis septembre 2007, dans un processus de destruction de l'emploi, des conditions de vie, de la sécurité, de la vie des gens des États-Unis. Tout ça pour renflouer les gens qui avaient pillé l'économie, qui avaient pris nos emplois, pour honorer la dette artificielle de ces escrocs financiers, associés à Wall Street chez nous, avec Goldman Sachs, Goldman Faf.
C'est
ça. Et notre président est quelqu'un qui n'est juste quelqu'un qui est là pour serrer les pompes, cirer les pompes des gens de Wall Street et des traders. Il a été éduqué à mémoriser des discours, mais le problème c'est qu'il ne les comprend pas. Il n'a aucune compréhension de ce qu'il dit, il est juste mémorisé. C'est peut-être l'idiot le plus compétent qu'on ait jamais eu aux États-Unis. Et il reste un idiot aujourd'hui. Tout ce qui vient de sa bouche n'a aucun sens. Il est entraîné comme un animal à répéter des choses. Et il a une grande ambition. Il se donne l'illusion d'être grand comme un empereur. Et il a adopté aujourd'hui une politique dictatoriale
with what was attempted through 9/11.
Depuis ce qui avait été fait le 11 septembre aux États-Unis avec ces décisions unilatérales présidentielles et la guerre en Irak et tout ce qui a suivi. Donc on est maintenant aux États-Unis dans une dictature. C'est la dernière étape. On est à la dernière étape avant la dictature complète aux États-Unis et des gens poussent à ça pour bientôt. Et à la fin de ce mois, et au début du mois d'octobre, l'année fiscale des États-Unis va devoir se clôturer. Et les comptes vont devoir être reconsolidés, publiés. Et il n'y a aucun argent pour renflouer les bilans des banques. Aujourd'hui, 48, voire 49 des États sont en cessation de paiement de manière officielle. Les paiements qui n'ont pas été faits ne seront jamais remboursés sous Barack Obama. Il n'y aura aucune amélioration de la vie des gens sous Barack Obama, parce que Barack Obama et son administration est dans la tradition britannique de mettre en continuer ce système de monétaire, d'intérêt monétaire privé. Et Obama a suivi la proposition des Britanniques de mettre en place une politique de génocide contre la population américaine, comme l'avait fait Hitler. La politique de Barack Obama est un génocide contre la population américaine. Ça, c'est un fait. Tous les gens qui dénient ça, ils se voient la face. Leurs officiels sont en train de leur mentir, et ça, c'est leur politique. Et les 60% aujourd'hui des États-Unis commencent à sentir ça. Et c'est ça aujourd'hui l'opposition vivante qui s'organise. Ils savent que ce mec-là, c'est un nazi. Et quand nous avons mis la moustache, la petite moustache d'Adolf Hitler sur la tête d'Obama, les gens ont compris à ce moment-là, ils se sont mobilisés. C'est une marionnette. Et il fait la même chose qu'Hitler dans la question de la réforme de la santé. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à renflouer les banques, les voleurs, ceux qui ont pillé ce pays. Et maintenant, on s'en prenne à notre santé. On ne peut pas même maintenir des emplois normaux sans un système de santé. Un tiers de notre population est non employée et un tiers de ce un tiers ne reçoit aucune compensation pour ne pas travailler, n'ont rien. Donc 30% de la population aujourd'hui est dans une situation où ils n'arrivent même plus à travailler pour survivre. Et puis octobre se rapproche, on va entrer dans une période catastrophique. Pourquoi ? Parce que Obama, le président, est déterminé à renflouer le système, quoi qu'il arrive, même si ça veut dire tuer des Américains avec son système de la réforme de santé, qui est une copie exacte de ce qu'a fait Adolf Hitler en 1939 en Allemagne, en septembre-octobre 1939. Il n'y a pas une once de différence entre ce que Hitler a fait en 1939-1940 et ce que Obama est en train de nous dicter aujourd'hui. Pas une once de différence.
One minimal condition which ought to be imposed that every creep that's part of that Obama healthcare cabal should be thrown out.
La cabale qui entoure Obama sur la question de la santé doit être dégagée immédiatement.
Any official government who says I'm wrong is a liar.
Tous les gens qui sont dans les milieux officiels et qui disent que j'ai tort se trompent. On a une situation, si en tant que nation, qui représentons des gens, notre population, on ne peut pas avoir la destruction de la grande majorité de nos concitoyens dans des situations désespérées pour renflouer des intérêts financiers étrangers. Parce que la grande crise d'aujourd'hui, dont Obama ne parle pas, et je ne sais pas s'il va même en parler demain dans son discours, on doit faire face aux effets de l'emploi du chômage de masse. Pourquoi les gens ne sont pas employés? Parce qu'ils ne sont pas en train de produire. Ils n'ont aucune opportunité de produire. Nos industries ont fermé. Notre système agricole est en pleine désintégration. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un acte de trahison. Et cet acte de trahison se nomme la globalisation, la mondialisation. Vous savez ce qui se passe sur cette planète? Après 1968, printemps-été 1968, la mondialisation. Ça a été commencé par un mouvement fasciste sur les campus, sur les campus américains, les campus d'élèves privilégiés. Ils ont retiré leurs vêtements. Ils ont commencé à exhiber leur appareil sexuel et ont dit « voilà la liberté ». C'était la classe supérieure dans les universités. Il y avait des gens, une concentration de gens où le culte dionysiaque a été redéveloppé, qui était la base du fascisme. Tous les campus privilégiés des États-Unis ont été envahis par ces folies. Ils pensaient être exemptés de leur service militaire pour le Vietnam et de ne pas faire leur service militaire et aller se battre au Vietnam. Mais quand on s'est rendu compte qu'il allait falloir et c'était la question fondamentale de l'époque. C'est-à-dire que ce mouvement fasciste aux États-Unis était au départ connu sous le nom des Weathermen, les hommes du temps. Et c'est ce mouvement qui a pris de plus en plus le contrôle de la politique américaine dans les institutions, dans les congrès. Et maintenant, on a la révolution verte. Et la révolution verte est contre l'industrie, contre la production. On a une population humaine qui dépend de l'industrie, de la production de puissance, d'énergie. On a commencé par le soleil, puis on a brûlé du bois, puis du charbon, et après on est passé au nucléaire. Et demain, la fusion thermonucléaire. C'est-à-dire que l'existence même de la civilisation humaine dépend d'une transition permanente à des niveaux d'énergie, à des flux de densité énergétique supérieure constante. Et aujourd'hui, sans la fusion nucléaire, on ne pourra pas continuer à soutenir une population mondiale de la grandeur actuelle. Et même on ne peut pas maintenir le standard de vie, les conditions de vie, parce que par rapport à la politique qu'on mène, on est en train d'user, d'épuiser les ressources sur lesquelles nous dépendons. Et ces ressources, qui ont en grande partie été justement des dépôts liés aux organismes vivants qui se sont déposés et formés des mines de fer ou d'autres. Et aujourd'hui, beaucoup de mines, en fait, sont le résultat d'une concentration d'organismes morts qui se sont décomposés dans les processus biologiques. Et ça, ça a produit notre industrie sur laquelle nous, on a pu augmenter nos niveaux de vie. Et maintenant, on épuise ces ressources. Il y a bien d'autres ressources sur cette planète, mais on doit les avoir. Elles ne sont pas juste dans le jardin. Donc, il va falloir aller les chercher. Ça veut dire plus de puissance, ça veut dire plus de travail. Donc, on doit toujours successivement aller des niveaux supérieurs d'énergie. De simplement brûler un morceau de bois ou autre chose pour produire.
Or something was burned, as in cooking, or fire spot in that area. Ah, you say this thing was human.
Because only. Et quand vous voyez ça, même dans l'archéologie, on retrouve des sites. On sait que les êtres humains étaient là parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ont été brûlées. En fait, on a brûlé ceci ou cela, et l'économie humaine a été basée là-dessus. Et on a les preuves archéologiques. Et justement, c'est ça la différence avec les babouins qui n'utilisent pas ce principe du feu.
We still have plenty of the same resources, but we have to get it.
Mais aujourd'hui, on a toujours plein de ressources sur cette planète, mais ça demande plus d'énergie, plus de travail, plus de production pour les obtenir. Donc, on doit augmenter notre concentration d'énergie. Mais ces fascistes, comme les hommes du temps, les weathermen dans les années 68, nous disent « Non, 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 on retourne au vert, on se met au vert, on va retourner au soleil, on va retourner au vent. » Au lieu de se dire qu'on devait faire face à la réalité, que l'homme change le monde dans lequel il vit, et même demain changer le système solaire dans son ensemble. D'aller à des capacités scientifiques pour maîtriser les forces, pour maîtriser des hauts flux de densité énergétique et les appliquer dans la société. C'est-à-dire qu'on peut augmenter le niveau de vie de nos concitoyens et on peut même surpasser les soi-disant limites de nos ressources stagnantes. Donc, mais le problème, c'est qu'on n'étudie plus la science dans les universités. On appelle ça science, mais en fait, ce n'en est pas. C'est de la dévotion, du culte. À l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, on était dévoués, on avait une mission, des projets scientifiques, on avait les capacités d'ingénierie, et ce qui nous permettait de produire les armes qui nous ont permis de gagner la guerre. Et on a remporté le succès. Et à la fin de la guerre, on avait aux États-Unis la plus grande capacité de production que le monde n'avait jamais connue. Et c'était ça l'intention de Roosevelt. C'était d'utiliser ça qu'on avait utilisé pour produire l'appareil militaire pour l'avantage civil et arrêter les guerres. Et l'utiliser pour le développement des citoyens. Et c'était ça. Et même libérer les gens de l'empire, du colonialisme à l'extérieur du pays. Et en transmettant ces moyens de production, de leur donner la capacité d'autosuffisance, de développement. Et mettre un système en place de gouvernement, d'État-nation souverain coopérant sur cette base-là. Une paix mondiale basée sur des intérêts communs. Et ça, c'était l'intention de Roosevelt quand il y a eu aux Nations Unies ou autres. Sortir du monde impérialiste, passer à un monde d'État-nation souverain, leur donner l'option de devenir comme les États-Unis d'Amérique. Et à partir du moment où on aurait pu lancer la coopération et pas se faire piller par les intérêts financiers britanniques. Ça, c'est la chose, ça. Mais ça a été détruit par Truman et depuis lors. Et Truman léchait les fesses de Churchill à l'époque. Donc on va continuer comme avant à tuer des gens, envahir des terres pour le bénéfice de l'Empire britannique. La guerre en Irak. La guerre au Vietnam, c'était la même chose. Et moi, quand j'étais dans mon service militaire à Burma, en Inde, on supportait Ho Chi Minh en Indochine contre les Japonais. Et quand les Japonais se sont rendus aux forces américaines, c'était fini. Le gouvernement américain avait joint Ho Chi Minh et avait réussi à décoloniser de l'impérialisme. Mais qu'est-ce qu'a fait Truman ? Truman a dit « Ok, je vous redonne les États-Unis aux Britanniques, virez les troupes japonaises des camps et envoyez-les au Japon. Et envoyez-les en Indochine. » Et des agents britanniques sous le contrôle de Truman ont refait ça. Donc on a inversé totalement notre politique. On a recolonisé l'Afrique. Et on a recolonisé une grande partie du monde. On n'a pas utilisé notre potentiel industriel pour permettre à ces pays, avec des machines-outils, à développer leur propre autosuffisance alimentaire ou technologique. Et on s'est engagé dans la tradition britannique d'engager des guerres locales, d'organiser des rivaux les uns contre les autres, comme les Britanniques l'avaient fait dans la guerre de 7 ans, hein, au 18e siècle, monter les uns contre les autres. Et on a perdu notre matériel, on a tué des gens, on a envahi des pays pour la plus grande gloire de l'Empire britannique. Et on fait ça encore aujourd'hui, en Afghanistan. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries inconcevables que cette guerre en Afghanistan et Obama? C'est malsain. C'est totalement fou. Donc on est dans cette situation aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit réaliser qu'on a été trahi de manière assez profonde. Et que si Roosevelt avait réussi, en tant que président, sous son leadership, on avait ouvert les portes pour un nouveau monde libéré de l'impérialisme, de ce mal dont nous souffrons encore aujourd'hui. Ça, depuis 1945. Mais Truman a pris le pouvoir. C'était le joujou de Winston Churchill. Et rappelez-vous quand même que Wall Street, à l'époque, finançait Hitler jusqu'à Pearl Harbor. Truman était déjà là. Et quand Roosevelt était mort après tout ce qu'il avait accompli de grandiose, alors Truman a changé de camp. Et Wall Street avec. Et ils ont joué le jeu. On a un mot très spécial dans l'histoire humaine. On a, nous, une culture européenne qui a été lancée par un des plus grands personnages du 15e siècle qui s'appelait le cardinal Nicolas de Cuse, qui a reconnu à cette époque, dès le 15e siècle, que la situation en Europe était sans espoir. Et que toute l'intention du Concile de Florence avait été sabotée de A à Z. Donc déjà en Europe, devait penser à traverser l'océan, faire des contacts avec d'autres parties du monde, prendre les meilleures choses qu'il y avait à l'Europe avec eux, et contribuer en commun en défendant le meilleur de la civilisation européenne et après essayer de, à partir de là, revenir en Europe pour le redévelopper avec ses propres principes. Et on sait que Christophe Colomb a été inspiré directement par ce programme de Nicolas de Cuse. Le jour où il a, enfin, avant de partir pour son fameux voyage Mais le problème, c'est que les Habsbourg du Portugal et d'Espagne de l'époque ont fait en sorte que ça ne se produise pas de la bonne manière. Ont foutu en l'air ce genre de projet. Et c'était simplement avec la colonisation de la baie du Massachusetts au XVIIe siècle que l'idée a germé. Et on a, nous, fondé une république qui possède en soi le meilleur de la culture européenne. Pas de s'envoler et de partir de l'Europe, mais d'amener la culture européenne sur un nouveau continent et la développer ici, en tant qu'État-nation, qui serait ensuite un exemple pour la restauration future d'une forme de décence pour les pays européens. Beaucoup d'entre nous sont issus de la même culture, mais notre système de gouvernement est totalement différent du nôtre, et la différence est fondamentale. Et la différence fondamentale, c'est que nous n'acceptons pas ici la société oligarchique. On veut notre type de société basé sur la nature même de l'individu humain. Et ce qu'on représente, c'est le meilleur de cette culture européenne qui a été ramenée ici, libérée des habitudes de l'oligarchisme, avec les barons, les ducs et les serfs. Nous, on ne croit pas du tout en cette société oligarchique. Et ça, c'est la distinction fondamentale. Donc nous, en tant que nation, nation qui parle anglais, on est unique sur cette planète de ce point de vue-là. Et on est le plus grand danger, justement, parce que nous représentons ce meilleur de la culture européenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent nous détruire. Donc maintenant, passons aux questions pratiques. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Obama est un menteur. Si vous l'appelez un menteur, alors vous ne serez pas un idiot. Ça, c'est un problème. Le mec, c'est une fraude. Mais je ne sais pas si lui-même le sent. Il sait qu'il répète ce qu'on lui demande de répéter, mais on ne sait pas s'il comprend ce qu'il répète. Il a dit, nous devons tuer les gens, tuer nos citoyens, parce que notre économie est vraiment dans un sale état. Et je lui dis, mais vous êtes stupide, monsieur le président, n'est-ce pas? La question de pourquoi on ne peut pas nourrir notre population? C'est parce qu'on n'est pas en train de les faire travailler. Vous avez pris leurs emplois, on a pris l'agriculture, on a pris les industries, donc les gens ne travaillent plus. Et pourquoi on ne leur redonnerait pas du boulot? Pourquoi on ne ferait pas revenir nos industries, nos fermes? Pourquoi ne soutiendrions pas notre industrie? Investir dans l'agriculture, dans l'éducation, pour même créer des nouveaux emplois dans différents domaines. Et aujourd'hui, même l'éducation est dans un sale état. Les gens qui sortent de l'école aujourd'hui, même des grandes écoles, ne savent rien. On les a déséduqués. Où sont les emplois? Monsieur le Président, où sont les emplois? Monsieur le Président, où sont nos qualifications? Monsieur le Président, où sont nos industries là pour employer les gens? Où sont nos terres pour faire travailler nos fermiers? Monsieur le Président, où sont nos infrastructures économiques de base? Monsieur le Président, les citoyens sont dehors. Vous voulez les tuer? Vous voulez augmenter le taux de mortalité des États-Unis? Pourquoi, Monsieur le Président? Pourquoi es-tu si idiot? Et on n'arrivera pas à sortir de là si on t'écoute. Et toi-même, tu ne devrais pas t'écouter toi-même. Parce que tu as été élu. Je le regrette, mais c'est un fait. Je regrette le fait que tu es président parce que tu n'as pas les compétences. Mais monsieur le président, j'ai une solution pour vous. Je vais prendre soin du problème pour vous. Tu vas t'asseoir dans la maison ovale. On va virer les clowns qui t'entourent jusqu'à présent, qui ont poussé cette politique de génocide contre les citoyens américains. Et on va mettre des gens qualifiés dans ton... Et on va s'occuper des choses. Et j'ai bien peur que beaucoup vont devoir partir. Et en particulier, Rahm Emanuel et son frère. Et quand le père de Rahm Emanuel était dans un hôtel et qu'il avait explosé à l'époque dans un attentat, c'était la famille de Rahm et de Ezekiel Emanuel. Et tout le building avait explosé. Et lui, il était assis sur le toilette avec le bâtiment qui s'effondrait autour de lui. Et la question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est oui, qu'est-ce qui est arrivé aux toilettes? Et je pense que toi, Rahm, et ton frère, vous devriez partir à la quête de ce toilette de votre père. On n'a pas besoin de la famille Emmanuel dans notre gouvernement. On n'a pas besoin de Peter Orszag. On n'a besoin de personne associée à cette réforme de la santé du président. Aucun. Ils doivent partir. Et ils doivent faire partir précipitamment et maintenant. Donc ton problème, monsieur le président, tu dois faire attention à ce que je fais, ce que d'autres font pour conseiller ton gouvernement. On va te protéger dans la Maison Blanche, parce que là, à ce moment-là, si tu nous écoutes, il y a des gens en Angleterre qui vont vouloir t'assassiner. Donc on protégera ta personne en tant que président. Tu resteras dans la maison ovale, dans le bureau ovale, t'inquiète pas. Tu demanderas de parler de politique qu'on ne t'aura pas rédigée avant. Et sur cette base, on a des gens dans les institutions américaines qui sont prêts, à ma connaissance, pour remplacer cette bande de clowns qui pousse Obama à faire n'importe quoi. Et on mettra en place un programme pour faire quoi? Première chose, dans la situation immédiate, à début du mois d'octobre et au-delà, on aura une situation désespérée pour les gens sont sur le fil du rasoir et beaucoup ne pourront plus survivre. La dernière étape pour leurs moyens de survie immédiats. Ils sont sur le fil du rasoir. Et des épidémies peuvent se développer très vite. Alors qu'Obama veut détruire justement tous les moyens qui permettraient d'empêcher ce type de développement. Donc elle a une démoralisation de notre population. Elle perd confiance en elle-même et au futur. Et ça, on doit se concentrer là-dessus. On doit créer des emplois réels dans la production, de la manière dont Roosevelt l'a fait dans les années de la dépression. On doit ramener les gens au travail. On doit leur fournir et ceux qui ne sont pas encore en train de travailler, on doit les aider à retrouver l'emploi. On doit sauver nos communautés. qui ne sont plus du tout productives aujourd'hui, dans relancer l'économie réelle. D'abord, des infrastructures économiques de base, des infrastructures physiques qui sont les fondements, la fondation même de l'industrie. À grande échelle, déjà vous créez beaucoup d'emplois, des contrats d'État pour construire les infrastructures nécessaires.
Like a transportation project, for example, or some other project which is a government project, you immediately stimulate employment.
Donc, à partir de ce moment-là, c'est ces projets d'État, vous stimulez. Et les gens qui ont des qualifications, des petites entreprises ou autres, pourront rejoindre cette dynamique et avoir du boulot et en créer encore plus. Et on doit faire ça très vite. C'est la première chose qu'on doit faire. Et on doit faire ça en quantité suffisante à l'extérieur pour redonner de l'espoir aux gens. Et repenser à l'expérience que moi j'ai vécue dans les années 30. La première chose, donc on doit reconstruire la confiance des gens qui sont désespérés en eux-mêmes et en leur futur. On doit recréer cette confiance dans des endroits de désolation. On doit leur redonner de l'espoir. On doit redonner des emplois productifs, Monsieur le Président. Pas des emplois verts, des emplois productifs. On doit régler le problème de la rivière de l'Ohio, ça ne marche plus. On doit fixer ce qui se passe dans la rivière du Mississippi, Missouri. Il y a beaucoup de choses à faire. Prenez quelques-uns de ces projets, lancez-les immédiatement. Et là, on va revitaliser l'emploi dans ces communautés désespérées, comme on l'a fait dans le passé. Regardez la carte des États-Unis, État par État. Faire une carte des problèmes et regarder les effets sociaux, les conséquences sociales du chômage. On veut avoir une augmentation de 20% des gens aux États-Unis dans les périodes immédiates à venir. C'est comme un cadeau de Noël ou un cadeau de bonne année. On remet les gens au travail. Si vous les respectez, ils travailleront. Respectez ce dont ils ont besoin, un sens de justice. Ils vous feront confiance à nouveau. Et à ce moment-là, au lieu de ça, aujourd'hui, monsieur, on a un phénomène de révolte de masse. Et les gens ne vous aiment plus du tout. Et ils commencent à vous haïr. Et ils ne vont pas vous faire de violence, à moins qu'ils en aient l'occasion. Et donc, vous pouvez prouver que vous êtes un homme meilleur que ce que vous avez fait jusqu'à présent. On va vous garder dans la Maison Blanche. Vous resterez là. Vous serez protégé. Vous serez consulté sur les questions comme on le fait avec les présidents et les conseillers, sauf que les conseillers que vous aurez seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétents que vous-même. Et là, pour la première fois de votre vie, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais vous serez fier de votre présidence, même si vous ne saviez pas du tout comment ce que vous avez fait s'est réalisé, mais vous serez fier et vous aurez l'honneur pour ça. Aujourd'hui, tous les politiques que vous avez menées sont stupides, idiotes et inefficaces. Monsieur le Président, pour la première fois de votre vie, soyez un homme.
Okay, well, let me first begin by saying that for those of you who have participated in these events before, you know something of the format.
Pour ceux qui ont déjà participé à ce type de conférence, vous savez que donc des questions sont envoyées de par le monde. Mais aussi, si vous, dans la salle, vous voulez poser une question, vous pouvez en poser une ou me demander de la poser pour vous, si vous le voulez.
Greetings that have come in for Lynn, wishing him a happy birthday from.
On a beaucoup de messages qui souhaitent un bon anniversaire à Monsieur Larouche.
Even begin to read all of them.
Je ne peux pas commencer à vous les lire parce qu'il y en a tellement.
That among the places that these greetings did come from are China, Russia, Argentina.
Alors, il y a beaucoup de messages qui viennent de Russie, de Chine, d'Argentine, d'Australie, d'Amérique du Sud, beaucoup, le Mexique, le Pérou, la Bolivie, le Venezuela, le Panama, etc. Donc, voilà. Joyeux anniversaire.
We also have obviously satellite meetings going on all over the world. I don't have to.
Il y a aussi un tas de retransmissions qui se font de par le monde. Je pourrais pas tous les mentionner, mais par exemple,
participating from
pour la première fois, nous avons un groupe de l'île Maurice, si je comprends bien.
The bulk of the questions do come from various institutions inside the United States.
Donc il y a également beaucoup de questions qui viennent des institutions américaines, de personnes qui travaillent sur les questions qu'a soulevé M. Larouche dans son discours.
It is clearly the case that the questioner or the institution question knows the answer.
Dans certains cas, il se peut que la personne qui pose la question connaisse la réponse, mais ils veulent en fait que M. Larouche la dise publiquement.
Voilà,
enfin, vous comprendrez ce que je veux dire plus tard. Donc on a beaucoup de questions aussi qui viennent des institutions dans le reste du monde.
Of some of these other questions. And the first few questions actually come from China.
Donc, je vais commencer avec les questions qui viennent de Chine, qui viennent d'un groupe de réflexion chinois qui suit de très près ce que fait M. Larouche.
Forward to Lynn good wishes on his 88th birthday. And to wish him many happy returns of this day. The questioner notes that eight as a number in China symbolizes luck, and we are sure going to need it. His question is, he says, Mr. LaRouche, as you know, China holds more than $2 trillion in foreign currency.
Monsieur LaRouche, comme vous le savez, la Chine a plus de 2000 milliards de réserves en dollars.
Donc
il y a beaucoup de débats à cette question, est-ce que le dollar doit rester une monnaie de réserve? Mais ce que je vais vous demander, est-ce que vous pensez que la détention de telles réserves de monnaie est quelque chose de bien ou est-ce qu'il y a une autre option pour les pays.
At this moment of world history, is the establishment of a relationship among a group of sovereign nations.
Ce qu'on doit à tout prix chercher à établir, c'est un accord entre les nations souveraines du monde.
Which represents sufficient power to force the world as
entre des nations qui, dans un premier temps, représentent suffisamment de puissance pour organiser un changement. Évidemment, comme je l'ai souligné, il y a quatre nations qui répondent pour commencer à ce critère. Mais tout cela tient au fait que la Maison-Blanche doit accepter ma proposition d'aujourd'hui. Donc à part les États-Unis, il y a la Russie, qui est l'État majeur en Eurasie, qui a un vaste territoire et qui est très développé en termes technologiques, et qui a la capacité pour développer ses ressources minérales qui se situent en Sibérie et au nord de la Russie. Ce sont les plus grandes réserves minérales du monde, mis à part ce qu'on peut trouver sous les océans. C'est très important, notamment du point de vue de la proximité de la Russie avec la Chine, parce que la Chine a besoin de beaucoup de matières premières. Et la Chine a besoin d'accroître le pouvoir productif de sa population. Parce que la Chine produit beaucoup pour l'exportation, et en retour, et bien, une grande partie de son territoire et de sa population n'est pas développée. Donc il va falloir régler cela.
The technology of Japan and its participation in a role in respect to cooperation with China, cooperation
with Russia. Dans le cadre de cette coopération avec la Russie et la Chine, le Japon et sa technologie ont un très très grand rôle à jouer.
It's very crucial for this entire area. So therefore, then you have to have the next largest nation, India, China and India.
Et ensuite, le quatrième larron, c'est l'Inde. Avec les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, nous avons une combinaison d'États qui, si ils coopèrent, représente la base pour changer le système international.
The role of these nations is crucial. Their cooperation.
Alors on peut se demander si on va réussir à empêcher un plongeon de la planète dans un âge de ténèbres, mais le rôle de ces quatre nations est crucial.
Because this is a part of the problem. We do not need a homogenized world. One of the great problems today.
Et un des grands problèmes aujourd'hui, c'est la mondialisation, comme je l'ai soulevé. Mais on n'a pas besoin d'un monde unilatéral aujourd'hui. La mondialisation a été lancée entre 68 et 73, comme j'ai déjà un peu expliqué. À l'époque, avant cela, l'idée était que chaque pays puisse développer ses propres capacités à produire et à vivre. Aujourd'hui, tout est basé sur les exportations et les délocalisations. Sur le fait d'acheter ce dont on a besoin dans d'autres pays.
And shipped production into other parts of the world. The effect has been the idea of national economic security no longer exists.
En conséquence, l'idée de sécurité économique nationale a disparu. Et les nations n'ont aucun niveau d'autosuffisance dans quelque catégorie que ce soit.
In basic industrial requirements and so forth. We no longer have that as a result of globalization.
Ils n'ont plus les instruments productifs nécessaires.
from nations which do not consume that production
to nations which will not produce that but will consume.
Donc on a d'un côté les pays qui consomment, qui ne produisent plus, et d'un autre côté, les pays qui ne consomment pas, qui produisent. Et ça, ça peut, c'est un système qui permet de contrôler les pays. On n'a plus d'État-nation souverain, économiquement parlant. Dans ce contexte-là, l'effondrement des États-Unis entraîne un effondrement de la Chine. Et ça, c'est un facteur qui suffit à faire plonger la planète entière. Aucun pays au monde ne pourra survivre à un effondrement de l'économie américaine. Un effondrement de l'économie américaine, c'est un effondrement de l'économie mondiale. Il y a... C'est inévitable. Et la Chine tombera en premier. Si les États-Unis tombent, la Chine tombe. Et la Russie tombe. Et l'Europe tombe. L'Amérique centrale, n'en parlons pas. Donc si nous ne mettons pas un terme à la mondialisation, si nous n'instaurons pas un système de coopération entre États pour mettre un terme au processus de mondialisation, nous n'avons absolument aucune chance qu'une civilisation survive à la surface de cette planète, et ce pour plusieurs générations. Alors le cas des 2000 milliards de dettes envers la Chine est explicite.
And if the credit of the United States is no good, then China has to eat those $2 trillion and lose everything.
Car si la dette américaine ne vaut plus rien, alors la Chine n'a plus qu'à manger ces 2 000 milliards de billets.
And the world as a whole. So therefore, we can no longer stand for globalization. Monsanto will give up this fake patent rights it has. No one will be allowed to patent a food. They didn't invent it. They can't patent it.
Une des choses que l'on mettra en place, c'est d'interdire les brevets sur la nourriture.
Okay, Mr. Monsanto, you can have all the inorganic ingredients you want. You cannot have any living thing in there. And I want you to show that you can take these inorganic elements and combine them in such a way that suddenly you have produced grain, viable living grain, that can hatch and produce more grain. If you can't do that, Mr. Monsanto, I think we have to consider your claim patent rights a fraud and canceled.
Et donc on va s'en prendre à Monsanto et leur interdire de breveter le vivant.
You really have to have some competent economics of this. We need a 50-year contract, essentially, among the leading nations of the world.
Ce qu'il faut, c'est établir un traité, une sorte de contrat qui porte sur 50 années. Sur la base d'un système de crédit où chaque pays aura sa monnaie nationale, émettra du crédit, et ensuite on aura des accords entre États sur des investissements à long terme, des investissements conjoints, qui portent sur 50 années.
The market isn't there. The market has been destroyed. It was artificial anyway. What China requires is a long-term capital development of its own.
C'est exactement ce qu'a besoin la Chine, c'est qu'elle a besoin d'un développement intérieur de son propre capital technologique, de son propre équipement. Et ça, c'est un chantier qui ne peut se faire que sur 50 ans. Donc pour ça, il nous faut un système de taux de change fixe basé sur des projets à long terme. Et cela permettra à la Chine, entre autres, de se développer et d'avoir un développement égal pour toute sa population.
Et de maintenir une population sur cette planète aujourd'hui requiert un très rapide
and very aggressive bit of technological progress, scientific and technological progress.
Car il nous faut ce système de crédit pour organiser le développement technologique. Sans ce développement technologique, ce sera impossible de maintenir un accroissement de la population mondiale. Donc ça, c'est un chantier qui se fait sur deux générations, sur 50 ans. Nous mettrons des taux de change fixes, émettrons du crédit au taux de 1 à 2% maximum pour financer ce développement. Donc pour la mondialisation, c'est fini. Dans ce type de changement, la mondialisation n'existe plus. Et la Chine, particulièrement à cause des problèmes qu'elle a, va jouer un rôle clé. Dans ces accords, il faut bien faire attention aux intérêts propres de la Chine que nous devons servir. États-Unis, Russie, Chine, Inde. Pour l'instant, l'Europe n'a aucune fonction au niveau international parce qu'elle est sous contrôle britannique depuis la mise en place de l'euro. Ils ont été littéralement avalés par l'euro. Les nations européennes ont été avalées. Leur souveraineté a été avalée. Car pour participer à ce type de réorganisation dont je parle, il faut être un pays libre. Il faut se libérer. Donc on va commencer par ces quatre grands pays. Ils sont très différents, mais qui ont un intérêt commun. Qui sont des États-nations souverains et qui, en s'assemblant, surpasseront l'Empire britannique.
Okay. I know I said I was going to ask these international questions first, but I'm going to have to make some changes. I will try to get to all of these questions. I'm going to ask.
Alors on a beaucoup de questions internationales encore. Je tendrai, j'essaierai d'y revenir plus tard. Mais on a un tel déluge de questions qui vient des institutions américaines. Que je vais faire en sorte qu'on puisse les poser pour la plupart. Mais d'abord, une question d'un diplomate russe de New York au sujet de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Qui, depuis ces derniers jours, a abouti à un rapport établissant que le système financier ne marche pas de manière appropriée.
That we face globally. The UN in their report adds that the present system under which the dollar acts as the world's reserve currency should be subjected to wholesale reconsideration.
Donc, les Nations Unies ont repris cette proposition de mettre une fin au dollar, au niveau de son rôle international. C'est la première fois qu'une institution internationale reprend explicitement cette proposition.
To intervene and either support or push down their currencies. depending on how the rest of the world economy is behaving. The UN proposal also implies that surplus nations such as China and Germany should stimulate their economies further in order to cut their own imbalances rather than, as in the present system, deficit nations such as the UK and US having to take the money. He quotes one of the authors of the report. He says, replacing the dollar with an artificial currency would solve some of the problems.
Qu'il parle en fait de remplacer le dollar avec une monnaie artificielle pour résoudre magiquement le problème.
Exchange rates. Countries should keep real exchange rates adjusted for inflation stable. Central banks would have to intervene, and if not, they would have to be told to do so by some multilateral institutions such as the IMF. He says, Mr. LaRouche, these proposals to me amount to a threat to national sovereignty, and perhaps...
Bon, donc ce que dit la personne qui pose la question au sujet de ces propositions de... mesurette pour détruire en fait le dollar, c'est qu'il pense que c'est complètement idiot.
Have pointed out that the economic crises that we currently face owe more to the malfunctioning of the post-Bretton Woods system. It still seems to me that this proposal is not a very good alternative. I ask you the question, however, because I know that this will come up as a major discussion, as an alternative at the G20 meeting, and also because I know that this has been a source of massive debate, often very hostile debate in my own country.
Well, the point is, the whole issue is totally incompetent. The question,
le problème, c'est que toutes ces considérations sur la monnaie sont incompétentes.
Beginning with the United States in what 65. The United States went to zero growth, net.
Depuis l'année 1968, les États-Unis n'ont aucune croissance économique réelle, en termes physiques.
The United States has been in a process of negative growth since the same period.
Et dès lors,
Europe has been in a state.
Depuis 68, la croissance économique physique aux États-Unis est négative, et c'est ensuite suivi en Europe. Cela à cause des politiques adoptées par les gouvernements et des décisions d'économistes travaillant dans les institutions. Donc ce rapport de l'ONU mentionné dans la question est un exemple de cette incompétence.
We don't need more injections with the disease which has caused the problem. And the problem has been caused by the incompetence of the economic policies of virtually every leading government.
Car la cause de la crise aujourd'hui, c'est l'incompétence des politiques et des économistes.
China has progressed. But China progressed on the assumption of being an expert.
Alors, on voit, la Chine économiquement a fait des progrès, mais elle a progressé en se reposant sur l'export. Et aujourd'hui, les marchés d'exportation ont disparu. Et la Russie a fait de même. Avec Poutine et maintenant avec Medvedev, ils se sont aussi basés sur l'exportation. Et c'est stupide. Car ils ont joué sur les fluctuations des valeurs des matières premières sur les marchés internationaux.
And now that market has collapsed. And Russia's in a crisis because it had the wrong policy of assuming certain things about the rest of the world's policies, which are wrong.
So I can take the case and prove it, and I have proven it, I think, repeatedly, that the policies of every part of the world have been aggregately insane in terms of their long-term effects over the past 40 years.
Donc les politiques qui ont été adoptées depuis 40 ans dans le monde ont été négatives dans leurs effets à long terme. Et c'est cela qu'on voit aujourd'hui.
We're going to fix this for you. We're going to tell you how to fix it. They say, please, I had cancer once, don't give it to me again. I don't need that anymore.
Et aujourd'hui, on se base encore sur des experts qui se sont trompés depuis 40 ans pour régler les problèmes. La première chose à faire, c'est d'éliminer le monétarisme.
You must use the United States as the proven standard under certain presidents, under its original intention of certain presidents.
Et pour cela, les États-Unis ont un rôle clé à jouer.
And use those experiences to show the American system is the best system that was ever developed.
On va se baser sur les expériences et les initiatives de Lincoln et Roosevelt pour faire ce changement aujourd'hui.
And it was British influence and British traders inside the United States who loved the British Queen more than they loved their own country, which are the cause of our problems. Apart from the fact that Britain was an empire, we had trouble fighting against it for some reason. But we defeated the British Empire under Lincoln. Palmerston went down, you know.
Sous Lincoln, nous avions battu l'Empire britannique.
But what happened?
Quelle défaite dans cette tentative?
By the British. It was the British who killed him. Open fact. No question about that. Just like McKinley was assassinated. For example, McKinley was a patriot, a seasoned patriot, and a competent president.
C'est pour cette raison-là que McKinley a été assassiné. McKinley était un patriote.
He put a bomb in his vice president, Teddy Roosevelt.
Et ils l'ont forcé à prendre un idiot comme vice-président, Teddy Roosevelt.
The guy Roosevelt, Teddy Roosevelt, was essentially a traitor to the United States.
Now, Teddy Roosevelt, une fois devenu président après la mort de McKinley, s'est révélé être un traître.
The policy of the United States, in terms of Europe, was to try to make peace with France, which was a difficult.
La politique des États-Unis sous McKinley était de faire la paix avec la France et de coopérer avec l'Allemagne bismarckienne et de développer ses relations avec la Russie. Sur la base des accords qu'avait conclu Bismarck avec le tsar russe, c'était la politique américaine pour éviter la guerre. Et de liguer même ces pays-là contre l'Empire britannique. Mais avec l'assassinat de McKinley par un agent britannique envoyé depuis l'Europe, et avec la coopération des cercles new-yorkais autour de Teddy Roosevelt, ont permis d'amener Teddy Roosevelt au pouvoir et de changer complètement la politique des États-Unis. Et ensuite, plus tard, dans la même lancée, on a eu l'administration Woodrow Wilson qui est arrivée et qui a mis en place la réserve fédérale.
Franklin Roosevelt changed it. It was supposed to go the other way. Franklin Roosevelt was supposed to be on the side of the British in this thing. And he wasn't. He was on the...
Et Franklin Roosevelt, qui certains pensaient serait du côté des Britanniques, a été du côté du système américain d'économie. Et a repris cette tradition de Lincoln, de McKinley, et a remis les États-Unis sur les rails.
Or either traders or incompetent. Most of the economists I know. I know some economists who are competent.
Et tous les économistes qui ne comprennent pas ça, qui ne connaissent pas ça, sont soit des traîtres, soit alors ils sont incompétents.
Some are incompetent in certain aspects of national policy making. There are some of these people.
Il y a des experts qui sont compétents en histoire, des experts qui sont compétents en politique, des experts compétents en économie.
The kind of knowledge which is needed to provide the government.
Mais la plupart n'ont pas la connaissance suffisante pour pouvoir mettre en place une politique économique qui est nécessaire aujourd'hui.
Et
Et toutes les politiques économiques qui sont aujourd'hui promues via la presse internationale sont complètement débiles. Car ce sont exactement les mêmes politiques, les mêmes incompétences qui ont créé cette crise et qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons absolument éliminer le monétarisme. Nous devons mettre ce système en banqueroute organisée, utilisant les critères du Glass-Steagall Act, pour en finir avec le monétarisme et uniquement prendre en compte des monnaies souveraines, des monnaies nationales, dans le cas de taux de change fixe.
Because the dollar has no longer, since about 1973, has no longer been a controlling factor in.
Le dollar, depuis 1973, n'est plus un instrument du gouvernement américain, mais est devenu un instrument de l'oligarchie financière internationale. Les États-Unis, le gouvernement des États-Unis ne le contrôle plus.
Comes from the British Empire. Comes from the British Empire. As I said today,
tous ces mots nous viennent de l'Empire britannique, qui n'est pas britannique au sens du peuple et du territoire britannique, mais qui est un conglomérat privé de puissance financière et monétaire. Et le FMI représente exactement cela. Il ne représente pas l'intérêt des nations, mais l'intérêt de groupes privés. Et les nations elles-mêmes ont été corrompues par le monétarisme. C'est pourquoi nous devons éliminer le monétarisme de la surface de la planète.
Donc,
toutes les propositions, dont celles que vous avez mentionnées dans votre question, sont incompétentes. Elles sont toujours basées sur les mêmes idées, les mêmes actions de ces 40 dernières années.
And he selected Germany as the source of its place of its publication because he thought the policies of the present policies of Germany were more suitable to his policies than those of any other part of the world.
In other words, et souvenez-vous, Keynes, qui proposait ce type de projet, a dit dans les années 30 que l'Allemagne était le meilleur pays pour appliquer ses politiques parce qu'il n'était pas démocratique. C'est ça le monétarisme. Donc ça, on veut s'en débarrasser. Il faut revenir à un système de taux de change fixe. Et pour commencer, pour créer ce changement, nous devons rassembler les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, et ensuite d'autres pays nous rejoindront. Et le grand problème auquel on fait face aujourd'hui dans ce projet, c'est cette corruption mentale du monétarisme. Vous le voyez dans ce type de propositions qui sont complètement folles.
Which was a cultural change, which became the baby boomer movement, which destroyed the inside, the United States from the inside. And that's where we have to look at these.
Et cette maladie mentale s'est mise en place à partir de mai 68. C'est devenu une corruption mentale.
Lynn, this is a question along a similar vein, which came up from the. The question itself came from a combination of the Stanford Group, but it was the Stanford Group actually.
Alors, la question suivante est en partie tirée des questions envoyées par le groupe de Stanford, ce groupe d'économistes qui travaille sur des politiques économiques alternatives pour l'administration Obama. Et qui aussi recoupe des questions d'autres économistes, américains ou d'ailleurs.
Jamie Galbraith. This is,
et qui recoupe la question soulevée par l'économiste américain James Galbraith.
As well as the initiative for rethinking the economy. And the question is as follows. So, Mr. LaRouche, without question,
voici la question.
Growing assessment of of all of us, but also of economists all over the world, is that the IMF...
La plupart des gens dans notre groupe pensent, et c'est le cas de nombreux économistes, que le FMI ne peut pas être réparé.
And it routinely violates its own charter with impunity.
Qu'il a violé toutes ses chartes.
The right to impose control over capital flows.
Et qu'il a dénié à ses pays membres de, d'opérer un contrôle des capitaux.
To demand reduction in terms of repayment. Yet the IMF and the World Bank routinely seek to set themselves apart as creditors preferred above anyone else. Conditionality and austerity are imposed on the most vulnerable member countries.
Le FMI a imposé l'austérité à tous les pays qui ont dû emprunter de l'argent ou à qui elle a prêté et a violé tous les droits économiques de base et a ainsi tué toute capacité d'avoir une reprise économique réelle.
In fact, the very concept of a reformed IMF is an oxymoron.
Donc l'idée même de réformer le FMI est une oxymore.
While there really is no question that in an ideal world, what you've called a four-power agreement to replace the currently dysfunctional international monetary institutions would certainly be the most preferable.
Votre proposition des quatre puissances pour mettre en place un système de crédit contre le système monétaire est probablement la proposition qui est la plus crédible aujourd'hui.
One proposal that has been put before us as an alternative to a single reserve asset world is something that we wanted your opinion on because there's some lack of clarity among us.
Nous voulons votre avis sur cette question d'avoir une monnaie de réserve mondiale.
That has been proposed elsewhere, but we are not sure this is workable. What we have been handed is
par rapport à des paniers de monnaie
asset system that would pursue the development of regional monetary authorities, which could, among other things, make dollar reserve assets earned by countries that are successful net exporters available to neighbors who are not.
Est-ce que vous pensez de l'idée de banques régionales qui puissent mettre au profit des pays qui ont le plus de difficultés économiques les dollars gagnés par ceux qui en ont le plus?
And two, a structured system like this would give small countries some of the advantages and margin for maneuver that are now enjoyed by large countries in both the developed and developing world.
Et donner ainsi, avec cette capacité de crédit, une liberté plus grande aux pays qui en ont besoin pour se développer.
The drawback of this is I think clear, but is there anything salvageable as far as you can see in this proposal, especially as an interim measure to be taken?
What you have to look at is you have to look at the Glass-Steagall Act by President Franklin Roosevelt.
Vous devez commencer par examiner le Glass-Steagall Act de l'époque de Roosevelt. Larry Summers, qui était secrétaire au Trésor de Clinton, l'administration Clinton était en difficulté et a réussi en 1999 à faire sauter ce critère Glass-Steagall.
You must put every system of the planet through internal bankruptcy reorganization.
Et aujourd'hui, chaque endroit dans le monde doit procéder à une mise en banqueroute organisée du système financier, selon ces critères de Glass-Steagall.
With the 1987 crash, under which, in effect, the...
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'après le crack de 1987, avec la politique de Greenspan, a permis de lancer à grande échelle les produits dérivés. Et aujourd'hui, tous ces actifs qui dominent entièrement le monde sont frauduleux.
You apply the Glass-Steagall standard and you take a pile of so-called monetary assets, financial assets over here. Put a big pile here. Now you put a test. It's like you're going to heaven or you're going to hell. And at the gates, you've got St. Peter. He's watching at the gate. Somebody comes up and says, we have this financial asset. He says, downstairs, please. And by the time you've gone through the process, there are very few saved Christians or anybody else left up there. So you have a much smaller number of claims, of financial claims on the system as a whole. You have eliminated the waste material. You've had the great Ex-Lex event of the century. And therefore, we should not talk about the existing so-called national monetary assets, because they're polluted. We have to cancel most of them. You know, I think about $25 to $30 trillion of the debt listed as the assets and claims of the United States.
Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de payer aux banques 24 000 milliards de dollars, rien qu'aux États-Unis. C'est l'équivalent des plans de renflouement. Ça, c'est n'importe quoi. Donc nous allons reprendre le contrôle du dollar et faire du dollar une monnaie réelle, pas une monnaie de jeu, pas une monnaie fictive, pas une monnaie qui est faite pour la finance spéculative. Car cette finance spéculative est un crime.
Certainly, it is monetarism has killed more people on this planet than any known disease.
Il faut bien voir que le monétarisme a fait bien plus de morts sur la planète que toutes sortes de maladies.
Its only rival is drug trafficking.
Le seul équivalent, c'est le trafic de drogue.
So therefore, when we talk about a relation among national currencies, we mean the currency of a national credit system, in which a sovereign government declares, this is our money.
Donc, ce que les gouvernements souverains doivent faire, doivent dire, cette monnaie, c'est notre monnaie. Cette monnaie n'est pas une monnaie qui appartient aux intérêts financiers internationaux. Et un État n'a pas à aller emprunter de l'argent sur les marchés internationaux, à des prêteurs privés. Il faut un système souverain.
Since the time of ancient Greece, since the Peloponnesian War, what was the problem?
Was it an Parce que ce monétarisme, c'est exactement ce qui assassine le monde depuis la Grèce antique.
The question was, you had
ça a toujours été le principal problème auquel on s'est affronté.
Take over the Eastern Mediterranean after the great battle where this occurred. You had three foci of Greeks, what we call today Greek.
Après la défaite de l'Empire perse,
which had a certain relationship with Egypt, which unfortunately at that time was under Persian occupation. So, and Egypt was an essential part of the culture. The relationship of Greece, historic relationship of Greece to the culture of the Greek culture and the Etruscan culture, for example, were a key part from the 7th century BC onward.
Il y avait dans le bassin méditerranéen la tribu égyptienne. Et ce qui s'est passé dans le bassin
méditerranéen,
et il y a eu un conflit à grande échelle.
Tyre was destroyed. And the Persian Empire,
orchestré par des puissances monétaires dans tout le bassin méditerranéen, jusqu'à Alexandre le Grand,
Alexandre le Grand qui a été empoisonné, probablement par Aristote.
These Greek influences, which were apart from being political influences, were actually economic interests. The economic interests of maritime power, Greek civilization,
and also predominantly historical. La bataille dans le bassin méditerranéen était orchestrée par une puissance monétaire en Grèce.
Not land power.
Qui se reposait sur des puissances maritimes.
These nations, which had emerged in the melting of the glaciers and up to the present levels of seas today, these powers had existed on the basis of trade. They produced things and they traded. The trade was based on.
Car ces pays méditerranéens reposaient sur les échanges, sur le commerce.
The system of reference for the Greek-speaking people of that period was the cult of Delphi. Which was an Asian intrusion into European.
Et c'est ainsi que la puissance monétaire a pris le dessus. Et la puissance monétaire qui dominait le bassin méditerranéen, c'était le culte de Delphes.
Once centered on Athens, another centered on Corinth.
Et ils ont fait en sorte que Athènes, Corinthe et Syracuse, les trois grandes puissances,
which were rivals in trade on the basis of
qui étaient des rivaux commerciaux et des rivaux en termes monétaires entrent en guerre les uns contre les autres. Ça a commencé avec les guerres du Péloponnèse, qui était la première étape, Athènes contre Corinthe.
Then, not satisfied with that piece of folly which had almost destroyed the joint, they went to a war with Syracuse.
Et ensuite, ils ont lancé la guerre avec Syracuse.
Syracuse was the center of intellectual and monetary financial power and economic power in that region. Boom. So they destroyed themselves for the sake of another power. So you had systems of monetarism, which private ownership of money.
Donc c'est un système monétariste basé sur une possession privée de la monnaie.
And the wars of the world, particularly of European civilization. Since that time,
qui a orchestré les guerres depuis cette époque. Il y a depuis cette époque une bataille pour la maîtrise du système par cette puissance monétaire. Et comprenez bien que l'Empire britannique n'est pas un empire parce que la Grande-Bretagne contrôle le monde. Ils n'arrivent même pas à se contrôler eux-mêmes, c'est dire. Bon, ils arrivent à contrôler les débiles d'Américains, mais bref.
Mais
c'est parce qu'ils sont le siège d'une puissance monétaire privée internationale qui, par le contrôle de l'argent, contrôle les pays, inévitablement. C'est ça l'impérialisme. Le monétarisme. C'est exactement la politique de John Maynard Keynes. Donc on se débarrassera du monétarisme en faisant ce qu'ont fait nos prédécesseurs en Amérique du Nord depuis la baie, la colonie de la baie du Massachusetts.
Ils ont
combattu les intérêts financiers internationaux pour défendre leur souveraineté. Et c'est exactement ce que prescrit la Constitution américaine. Un système de crédit, pas un système monétaire. Ça, c'est ce qu'a inséré Hamilton dans la conception de la Constitution américaine.
Donc
avant de vouloir faire des grands changements, il faudra d'abord se débarrasser de la syphilis, que si, il faut d'abord se débarrasser de la syphilis avant d'avoir une relation sexuelle.
Okay. Then the next question comes from the Stanford group. Say, Mr. LaRouche.
Donc cette question-là vient directement du groupe de Stanford.
Why certain proposals that we put forward, which we thought were obvious, were rejected, we started to take a closer look.
En repensant à pourquoi des propositions viables que nous avons posées sur la table ont été rejetées, nous sommes rendus compte que la politique américaine est très hiérarchisée. Et que dans les 30 dernières années, il y a eu un démantèlement du système fiscal. Aujourd'hui, le taux d'imposition des 30 plus grandes sociétés américaines est à moins de
2%. Who devote themselves to preserving the existing system.
Et donc on a une classe de gens qui sont dévoués à préserver ce système. Ce sont ces gens qui ont poussé ces initiatives qui ont mené à la titrisation et à toute cette finance folle.
Been a consistent failure to address, analyze, remedy, and above all, practice.
Et jusqu'ici, il y a eu un échec systématique pour comprendre ce phénomène.
That our government would not see any restoration of public trust until this occurred.
Et tant que l'on ne remet pas ça en question, il est sûr qu'on ne peut pas remettre sur pied un gouvernement qui fonctionne. Donc toutes nos propositions sont d'avance condamnées.
The conservative budget director under FDR.
Obama est l'équivalent de Lewis Douglas, qui était directeur du budget sous Roosevelt, qui était très conservateur. Mais nous devons nous préparer à jouer le rôle des gens comme Harry Hopkins, qui étaient les architectes du New Deal de Roosevelt.
From healthcare to bank reform continues to be written in consultation with lobbyists. One example is that the legislation on credit default swaps was actually prepared by Jamie Dimon and his lobbyists.
Par exemple, la loi
is that above all else,
préparée par James Dean, le dirigeant d'une des grandes banques de Wall Street.
Under these current circumstances, is that the market has come to substitute for the functions of the state. And without the state, the concept of the public interest disappears from all policy. Markets, by definition, serve private interests. With that said,
donc les marchés financiers, par définition, servent les intérêts privés.
That are chartered by public authority to serve public purpose.
Les banques sont dépendantes de la loi pour servir l'économie. Elles ont des droits et des responsabilités. Et l'État a le pouvoir légal sur le système bancaire.
Financial markets, on the other hand, especially the shadow banking system that we see today, exist to place in the domain of private market transactions what previously existed in a clearly defined relationship to public purpose. They escape both regulation and insurance. And the result has been to vitiate the concept.
Aujourd'hui, les marchés financiers échappent à toute régulation, à toute loi, et créent leur système pour leur propre compte, pour leur propre intérêt. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui contrôle les banques, mais les banques qui contrôlent l'État. Donc tout le monde est d'accord qu'il faut réformer le système. Même Geithner et Summers ont écrit un article là-dessus. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quel changement est fondamental dans tout ça?
That there will be no fundamental change unless and until we agree on two basic things. Number one,
mais il n'y aura aucun changement tant que nous ne serons pas mis d'accord sur deux choses.
And that the lawbreakers must be prosecuted.
D'abord, premièrement, les lois sont violées et ceux qui violent les lois doivent être poursuivis et jugés.
As a deterrent for them to do it all over again. Number two, it is
et deuxièmement,
that it must be stated clearly and without
il faut dire clairement et sans compromis que les banques sont des institutions qui doivent répondre à la loi, qui dépendent des autorités publiques et qui n'ont d'autres fonctions dans la République américaine que de servir l'économie. Alors bien sûr, ces deux points vont créer une panique. Et il y a des gens qui vont nous regarder avec des gros yeux. Mais nous ne voyons pas d'autre alternative que d'affirmer ces choses-là. On voudrait savoir ce que tu en penses. Savoir si on est dans la bonne direction.
Ce qui va se passer aux États-Unis et qui a commencé au mois d'août est un processus de révolution de masse. Le public américain s'est engagé dans des manifestations de masse à partir d'une haine contre le président des États-Unis et secondement contre l'ensemble des membres du Congrès et de la Chambre des représentants. C'est un phénomène qui est malheureusement très mal compris par beaucoup de gens, mais je le comprends très bien personnellement, parce que je l'ai étudié. Phénomène de révolte de masse. Et le précédent pour ça est apparu en Allemagne de l'Est en 1989, quand les gens de l'Europe de l'Est, et particulièrement en Saxe, se sont levés et ont dit « Nous sommes le peuple ». Nous sommes le peuple. Et à ce moment-là, le régime, à partir de ce jour, le régime était déjà mort, en processus de désintégration. Nous avons un événement similaire sur l'ensemble des villes des États-Unis au mois d'août de cette année. Une réelle révolte de masse. Pas des protestations. Un processus de révolte de masse. Il y a plein de vidéos là-dessus. Et les citoyens disaient, ferme ta gueule, c'est moi qui parle maintenant. On va te dire ce qu'il faut faire. Ils disaient ça à leurs congressistes. Et ils sont toujours en train de le dire. 60% des citoyens américains, malgré le président, ils traitent le président avec non-respect, parce qu'ils veulent défendre leurs droits en tant que citoyens et leur dignité humaine. Et la question de la réforme de la santé est la question numéro un. Donc maintenant, il y a d'autres questions à régler. Mais quand le citoyen américain se met sur ses deux jambes et dit « Nous sommes le peuple »,
which I think a great number of them said, in effect, what I saw on the television shots of this thing.
Et moi, c'est ce que j'ai vu à la télé constamment. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le pouvoir ultime du gouvernement, de notre république, notre vraie république, le pouvoir n'est pas dans la majorité. La majorité, ce n'est pas la vérité, on peut l'acheter, la majorité. C'est pour ça que la plupart des gens ont été au Congrès, c'est qu'ils ont acheté leur vote. Voilà. Il n'y avait aucune expression morale dans leur élection à la Chambre des représentants ou au Congrès. Mais ils ont acheté les votes, avec de l'argent. Et les politiciens sont allés voir les gens avec de l'argent. Ils ont dit, hé ho, achetez-nous, achetez-nous. On sera à vous. Achetez-nous. Et on votera pour vous. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Mais, soudainement, tout est hors de contrôle. Et maintenant, on déteste la politique qui est mise en place. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va protester? On va aller voir nos représentants et leur demander de changer ces prostituées qui veulent nous apprendre simplement à avoir des pratiques sexuelles. Non, nous sommes le peuple américain. Et là, on va vous dire clairement que vous n'êtes pas l'un d'entre nous. Vous ne nous représentez plus. C'est ça la révolution américaine, c'est ce qu'elle a été. Mais c'est le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ces processus culturels. On n'apprend plus ça. Ils devraient le faire dans les universités, mais ils ne le font pas. Et ils font la même chose dans les universités que dans les élections présidentielles. Ils disent, voilà, achetez-moi et moi je vous dis ce que vous voulez. Mais c'est ça la chose essentielle. Mais il y a un phénomène aujourd'hui où les gens, et ça s'est souvent répété dans l'histoire, comme dans la Révolution américaine, où les gens reconnaissent un sens d'intérêt commun en tant qu'être humain. Des êtres humains avec une certaine culture, un groupe de culture. On dit, on est des êtres humains. Quel est l'intérêt d'être un être humain? Quel est le droit d'être un être humain? D'être des esclaves ou des servants de haut niveau? Et là, il se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le principe, la dynamique, le sens commun de ce qu'on veut réellement? Quel est notre droit? Le droit naturel des gens. Et ça, ça a été référencé par le grand poète anglais Percy Shelley. Il en parle dans son texte en défense de la poésie, où les gens voient dans un grand nombre c'est commun. Un intérêt moral commun. Et c'est à ce moment-là que les gens se sentent capables de s'unir et c'est transcendé par cette force qu'ils ne reconnaissent pas, mais qui les transcende et les mouge. Et ça, c'est cette force-là, c'est nos droits, notre mission, notre but. On ne va plus être des esclaves, on va décider de bouger et de passer à une vitesse supérieure. C'est un principe moral. C'est ce principe moral qui doit nous gouverner quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que vous avez ce grand mouvement aux États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, malgré la folie de cet égocentrique président, il y a un pouvoir qui est bien plus grand en fait, qui est en train de se développer aux États-Unis aujourd'hui. Les gens, les citoyens américains, lui ont dit, tu es fou, tu, on t'aime pas. On va prendre cette moustache et on va te la coller sous le nez parce que tu menaces de nous tuer. Tu veux prendre notre système de santé. Tu veux nous ruiner pour sauver tes intérêts financiers. Prends l'argent des gens qui t'ont élu. Et ils ont décidé qu'ils en ont payé trop. Ça, c'est les choses telles qu'elles vont actuellement. Donc la seule manière pour corriger ce type de problème, c'est quand les gens sont debout, comme les gens des États-Unis, en grande partie aujourd'hui, comme dans le mois d'août, ils se lèvent avec un but supérieur pour une moralité supérieure. Et ils insistent. Comme les gens en Saxe d'Europe de l'Est ont fait. C'est fini, les lunes de miel. On va faire tomber ce régime. Les gens aux États-Unis sont désespérés. Et regardez au mois d'août ce qui s'est passé. Six, 60% a renié cette administration. Et les gens du Congrès ont été effrayés par ça. Ils vont retourner au bureau en tremblant. Qu'est-ce que je vais faire? Ils me regardent, c'est moi. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont aller voir les gens dans cette disposition des États-Unis? Non. Et là, les gens vont leur montrer rapidement à ces débiles ce que c'est que la réalité. Les gens aux États-Unis ne vont plus tolérer ça, c'est terminé. Et ça, c'est le gouvernement. C'est le jour où les politiciens sont totalement payés et travaillent pour Wall Street. Barney Frank, combien on l'a payé pour faire ça? Aujourd'hui, son service n'est plus désirable et on va lui demander de rembourser. C'est la réalité. Et ce que vous avez à faire, ce que j'ai à faire, on doit être gouverné par cet esprit-là, par notre propre conscience, que nous sommes les gens. Je suis un membre de cette nation, fais partie de ces gens, je vais agir, et agir pour changer les choses, avec le consentement de ces gens. Et donc, c'est nous qui allons parler maintenant. Et les gens à Washington ne nous écoutent plus. Et le président dit, c'est pas vrai, mais c'est la vérité. On est face à une crise comme l'humanité ne l'a jamais vue dans son histoire. Une rupture brutale du système financier sans précédent qui nous entraînera dans un âge des ténèbres qui dépassera notre propre entendement. Et les gens disent non. On ne veut pas ça. On veut sortir de ce système. Et il y a une puissance qui est plus importante que nos élus et les représentants de la Maison-Blanche. Et là, si on leur donne les moyens, ils parleront. Parce que le but de leur vie, le sens de leur vie est en jeu. Tous les gens aux États-Unis, on a détruit tout ce qui leur permet de vivre, tout même un sens à leur vie. On a détruit leur vie, mais pas, on n'a pas détruit le sens à leur vie. Ils peuvent le retrouver. Il faut dire au président, mais tu es complètement malade. Je sais que tu es ignorant, monsieur le président, mais aujourd'hui, nous, on va tout faire pour que tu deviennes plus intelligent et agisses de la bonne manière.
Ok.
La question suivante nous vient d'un représentant des priorités du budget et de politique de la Chambre des représentants qui travaille avec le groupe de Stanford sur la politique de relance de l'emploi. Je sais, Monsieur Larouche, que vous êtes très au courant que le chômage a augmenté jusqu'à plus de 10% la semaine dernière. Toutefois, je ne sais pas si vous avez eu accès à toutes les informations auxquelles nous avons, nous, accès, et je voudrais vous en faire partager avant de poser ma question. Il est dit, la tendance, on a perdu beaucoup d'emplois et on est toujours en train d'en perdre, mais le fait est que les médias ont essayer de transformer ça en une bonne chose, disant que la tendance, de toute manière, semblait s'améliorer. C'est un petit peu comme mettre du rouge à lèvres sur une truie. Donc si la situation s'améliorait, on n'aurait pas autant de pertes d'emplois. C'est évident. Mais les rapports récents semblent montrer que la situation est bien pire, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être notées. Un, la première, le nombre de chômeurs dans les deux derniers mois a été revu à la hausse pour inclure plus de 60 000 emplois supplémentaires. Et on verra beaucoup plus de ça dans les mois qui arrivent à cause de cette étrange chose, la chute du taux de naissance apparemment. Et ce modèle c'était 26 000 emplois de plus que le mois précédent. Et je voudrais dire que ces emplois sont théoriques. En fait, ils n'existent pas pour l'instant. Ils ont été créés sur le papier. Ça s'appelle les emplois saisonniers et tout ça. Mais les gens ne sont plus comptés à partir de maintenant dans les emplois réels. Donc, encore une fois, on doit regarder à ça d'un peu plus près, spécifiquement à par rapport aux emplois saisonniers qui ont été créés. Donc 143 000 emplois saisonniers en plus, mais ces gens-là ont encore besoin d'un boulot maintenant. Et aujourd'hui, c'est 300 000 personnes dans ce cas-là. Et si vous ajoutez tout ça, en fait, vous vous rendez compte que tous ces gens-là vont plus être comptés dans la force de travail à la rentrée. Donc on atteint la somme de 500 000. Si on ajoute tout ça, c'est 500 000 personnes qui sont ignorées des statistiques. C'est fou. Et après, il faut regarder le nombre d'emplois, de pertes d'emplois nettes. On voit un plongeon de 392 000 emplois. Ça, c'est le chiffre du gouvernement. Mais ce nombre a été aplati par justement cette idée de l'auto-entrepreneuriat, de l'auto-emploi qu'on a créé. Mais ces emplois ne créent pas d'argent, ne créent rien pour l'instant. Donc c'est le plus grand en fait plongeon de tous ces emplois depuis mars, en fait. Et les gens en travail temporaire, 230 000 pertes d'emplois temporaires, ce qui fait en tout 8,1 millions d'emplois temporaires aujourd'hui actuellement aux États-Unis. Donc c'est on a une perte d'emplois sans précédent et sans fin. Mais beaucoup de ces emplois ne sont pas en train de revenir, c'est ça le problème. Donc si on pense à ça pendant un moment, on doit considérer le fait une autre chose également. Aujourd'hui, donc il y a aujourd'hui beaucoup plus d'employés. Non, il y a beaucoup plus de. Oui, il y a beaucoup moins d'emplois, mais beaucoup plus de force de travail. Donc, il y a aussi ce rapport-là à prendre en considération. C'est plus de 10% pour les gens en âge de travailler du milieu masculin. Et c'est 27% en fait pour les femmes. Tous les signaux sont au plus haut depuis qu'on a commencé en fait à prendre en compte ces statistiques de l'emploi. Sans compter les gens qui font un, deux ou trois boulots. Et il y a encore deux chiffres qui sont à noter. 1,3 million, c'est-à-dire les gens qui arrivent en fin de droit d'aide, en fait, parce qu'ils ont perdu leur travail. Donc, en fait, avant la fin de ce mois, les gens-là n'auront plus de compensation, en fait, par rapport à leur plus de chômage. Alors maintenant, 40% qui ont un emploi aujourd'hui ont du mal en fait à pouvoir même rembourser leur prêt ou leur niveau de vie.
18 states have simply run out of money to pay the benefits and they've been
forced. Donc aujourd'hui déjà 18 états ne sont plus en mesure de payer les allocations chômage en fait de l'ensemble des gens dans leur état. Et ça va grandir puisque plusieurs États sont en train de converger dans la même direction. Ça, avant la fin de l'année 2009, avant la fin de l'année
2011.
Beaucoup de gens ont des montants d'épargne à zéro, en fait, aujourd'hui. La Californie... Dans, ils ont fait des bénéfices sans augmenter la taxation. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus du tout en mesure d'équilibrer leur budget. Donc, en plein milieu de la crise que la plus grande crise que l'histoire de notre pays a connue, donc, quand M. Larouche, ces questions-là vont atteindre leur apogée. Donc on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des tickets alimentaires alors qu'ils ont un travail. C'est 40 millions de personnes aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ils ont tellement besoin de ces tickets alimentaires qu'il faut répartir entre ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui en ont moins besoin. Donc, c'est des gens qui sont en train de mourir de faim, ils sont en diète, en régime forcé. Et au-dessus de tout ça, 35% des travailleurs aux États-Unis ont moins d'un mois de salaire en épargne. Donc, c'est ça la situation aux États-Unis. Si ça continue à aller pire que ça, dans la perte d'emploi, et malgré ce qu'Obama a l'air de penser, l'économie américaine n'est pas en train de s'effondrer parce que les Américains ne consomment pas assez. C'est faux. Et on dit on va faire consommer les gens. Mais ça ne va rien régler du tout. Donc ma question, c'est qu'est-ce que ça va prendre comme mesure pour sortir de ça? Et ma deuxième question, je pense que tu as souligné ce qu'il faut faire de manière générale dans des commissions privées ou ici en public, mais ma question est plutôt celle-là. Si j'étais le président des États-Unis et je vais aller voir les gens américains, de demander leur soutien pour un grand programme de reprise économique, je ne voudrais pas couvrir, je ne sais pas. Je voudrais que les gens savent à quel point la situation est grave, en fait, et que les gens continuent à souffrir, ils vont continuer à souffrir. Donc, et on ne peut pas continuer à couvrir ce fait et minimiser la réalité. Il n'y a aucun média aux États-Unis qui a osé parler de ça. Donc moi, ça m'amène à penser, et d'autres, que le gouvernement lui-même n'a aucune intention de demander le soutien pour une politique de reprise économique à l'échelle globale. Et je sais que c'est complètement opposé à ce qu'a fait Roosevelt, mais Roosevelt, au moins, il a essayé de faire quelque chose et ça a marché. Peut-être que ça paraît cynique. Mais en fait, je crois que c'est vraiment ça le problème.
That's a characteristic of our problem.
Ça, c'est une des caractéristiques du problème. C'est que... Donc, la première chose, c'est que Cheney a menti pour engager les États-Unis dans une guerre en Irak. Et les Anglo-Saoudiens ont orchestré tout le spectacle du 11 septembre. Les faits sont connus. Ça a été organisé le 11 septembre par le gouvernement britannique, une certaine branche de son gouvernement, en coopération avec l'Arabie Saoudite, et des terroristes qui ont été payés, financés, par l'ambassadeur saoudien aux États-Unis. Il était très proche de l'administration Bush. Donc c'est un fait. Donc il y a eu l'affaire Valérie Plame. La famille Bush, Ben Laden, la famille Ben Laden. Le seul avion qui est parti des États-Unis ce jour-là, c'était la famille Ben Laden. Mais c'est pas secret. Il y avait des indications de ça dans les auditions, mais on l'a mis sous la table. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a été fait par les amis du président des États-Unis, les amis de sa famille, la famille Bush, avec l'aide de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite américaine. Et ils ont financé, qui était une branche de la corporation anglo-saoudienne. Pourquoi ça a été couvert, ça? Quelle était la raison? Pourquoi on a assassiné Lincoln? Pourquoi on a assassiné McKinley? Pourquoi ces choses ont été faites? C'est pas les statistiques le problème, mais c'est typique de notre histoire. Les gens sont paniqués, ils ne pensent plus. Ils ont peur de ça, ils bougent là, à droite, à gauche. Ils deviennent superstitieux. Ils pensent qu'il y a des forces mystérieuses qui ont fait le 11 septembre. Non, il n'y avait pas de forces mystérieuses, c'est une opération qui a été couverte. Les évidences sont là jusqu'à aujourd'hui. C'est enregistré, auditionné. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis a été impliqué dans le financement, dans la protection de certains participants des attentats du 11 septembre. L'opération a été faite. Pourquoi cela a été fait? Très qualifié, un débilo très qualifié comme président des États-Unis, qui n'était pas capable de gouverner. Donc, il a quand même gagné contre Al Gore, quand même, c'était. Quand même gagné contre Al Gore, il fallait quand même.
Anyway, but the point is, it's ungovernable. So what happened with? After a discrete interval of panic.
Donc, il y a eu un intervalle de panique. Un moment de panique. Ils ont mis en place des nouvelles lois qui sont devenues le système présent. Le système présent qui continuait, mis en place. Et c'est comme ça qu'Obama est arrivé au pouvoir. C'est ce qu'Obama représente. Il signe des lois de manière unilatérale. C'est une dictature. C'est la même catégorie que ce qu'a fait Hitler quand il a été mis en place par les Britanniques. Voilà, à l'époque, il était financé par les intérêts financiers britanniques, Banque d'Angleterre, à travers la Banque des règlements internationaux. Qui faisait partie intégrante de ce processus, dont le président était Hjalmar Schacht, qui travaillait directement avec la Banque d'Angleterre, à la tête de la Banque des règlements internationaux de l'époque, pour imposer une thérapie de choc à l'époque à l'Allemagne pour rembourser les banques. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a mis l'incendie au Reichstag. Et quand j'ai vu, nous, le président Bush, quand il a été élu, le jour où il était inauguré, j'ai dit, ce mec-là, il va amener aux États-Unis quelque chose du style d'un incendie du Reichstag. Et ça a été notre 11 septembre à nous, qui a instauré un règne de terreur et le pouvoir pour les présidents de décider, de prendre des mesures de manière unilatérale sans contrepoids. Et qui a été dénoncé par Obama dans sa campagne présidentielle. Ce n'est pas ma politique. Et le pouvoir du Congrès est limité aujourd'hui à cause de ces lois dictatoriales de pouvoir exécutif unitaire. C'est comme ça que les choses sont arrivées. Ne regardez pas dans quelle poche on a prise, mais qui en bénéficie? Ça, c'est la situation actuelle. On a une fraude complète dans notre gouvernement. Si on est assez fou pour l'accepter, alors je vous dis clairement, bon, qu'est-ce qui va se passer à l'humanité, pour l'humanité, si on ne change pas? Si les choses vont, comme Obama est en train de les... Vous dites au revoir au pays et il disparaît, bientôt. Et les autres pays suivront. Parce que si les États-Unis tombent, si le dollar américain tombe, tous les gouvernements du monde vont s'effondrer. Et à vitesse grand V. Et à ce moment-là, pour plusieurs générations, on aura un effondrement des populations. Comme le veut la monarchie britannique, une réduction massive de la population mondiale sera achevée. Beaucoup de langues, de cultures disparaîtront de cette planète. Mais certains auront eu en face ce qu'ils voulaient. Ils auront un système oligarchique. Si on est assez fou pour les laisser faire. Et c'est ça le problème ici, c'est qu'on a tendance à d'agir à deux niveaux. Donc on se permet de faire un déni de réalité sur ce genre de choses. Mais on ne se pose pas les questions de fond. Pourquoi cela est fait? Pourquoi ça a été fait? La question c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer si le président américain peut imposer comme un empereur devant le Congrès et la Chambre des représentants? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est où notre séparation des pouvoirs? Le pouvoir de balancer les pouvoirs, il est où? C'est une tyrannie. Et c'est ce qui peut changer ça, c'est quelques voix comme la mienne et un mouvement de masse. 60% de la population derrière. Et ne sous-estimez pas ce que je dis. Parce que j'ai aucun contrat avec personne à l'extérieur. Soit le président change, je sais comment lire leurs intentions, mais je vous le dis clairement. Je ne suis pas un prophète, mais je vous dis ça. Les gens à l'extérieur, faites ce que vous avez à faire, comme je l'ai dit aujourd'hui, ou alors vous n'aurez plus de pays. Et pire, vous n'aurez plus de civilisation. Parce que je sais où est-ce qu'on va. Et ceux d'entre nous aux États-Unis qui savent et qui ont les tripes, dire à ce président, dégage de ce bureau, On va te dire quoi faire. Alors on stoppera ce non-sens. Et on verra tous ses compagnons. On va balancer cette réforme de la santé à la poubelle. Et on va changer la politique. Et on va augmenter massivement la productivité de notre pays. Monsieur Larouche, une question économique. Ah, je vais laisser passer la question économique pour poser une question par un historien assez connu de la côte Est. Je vais essayer de composer plusieurs questions parce qu'il y en a beaucoup en fait sur ce sujet particulier. Il dit, Monsieur Larouche, une des choses que je le crains le plus dans les semaines qui viennent est la ramification sociale, constitutionnelle, si vous préférez. Premièrement, sur la question de la santé, il semble de manière croissante qu'il y ait un consensus que cette administration, malgré le fait qu'elle ait proposé cette politique monstrueuse, n'est pas capable de la mettre en place. Et ils disent ouvertement d'utiliser un système parlementaire pour réussir à faire passer le oui de cette réforme. S'ils font ça, le résultat sera une explosion dans le Congrès et dans les gens aux États-Unis. Deuxièmement, le président Obama a rendu clair et l'a dit explicitement que il n'obéira pas les lois comme elles sont écrites. Ça, c'est l'égocentrisme total, comme Bush, qui disait « je signe cette loi, mais je ne l'appliquerai pas ». Voilà, on écrit des lois, mais on les applique comme ça nous chante. Et la question des restrictions des commandes des Nations Unies, il y a apparemment une situation aux États-Unis sur la question d'augmenter les troupes en Afghanistan. Et les gens voient ça et hallucinent. En plein moment où il y a un débat sur la réforme de la santé. Donc, on n'a jamais eu aucun débat sur la politique américaine vis-à-vis de l'Afghanistan et qu'est-ce qu'elle devrait être. Rien. Et il continue. Il s'engage, il va envoyer plus de troupes en Afghanistan. Encore une fois, je crains que s'il fait ça, et je crois qu'il va le faire, ça va nous amener à une explosion généralisée entre les progressistes et les libéraux, mais aussi dans les couches républicaines en particulier. Donc, tu as mis en garde une crise sans précédent dans la phase finale de cette rupture, cette désintégration du système bancaire mondial. Donc, dans ces conditions, d'avoir un président qui fait des déclarations comme ça ne gagne pas la confiance de la population américaine, mais la détruit. Et ça me fait peur. On n'a pas le temps d'avoir une crise institutionnelle maintenant. Mais tous les signes indiquent que c'est la manière dans laquelle on est. Donc ma question pour vous, Monsieur Larouche, est peut-être rhétorique, Mais ce président semble être obsédé avec sa popularité, son image. Y a-t-il une manière? Est-ce que cela peut être utilisé pour changer et arrêter ces politiques malsaines qu'il a mis en place? Il détruit sa propre capacité à diriger dans une période de crise. Et est-ce que vous pouvez commenter là-dessus, Monsieur Larouche? Si ça, on en vient à la survie des États-Unis et la popularité du président, imaginez pourquoi je vote, moi, pour la survie des États-Unis. Dans l'histoire réelle, les gens ont étudié l'histoire tellement longtemps qu'ils ne savent même plus l'histoire. Ils pensent l'histoire en termes statistiques, en termes narratifs. Ils n'entendent pas les pulsations qui sous-tendent les attitudes de l'humanité dans son ensemble, les êtres humains qui ont fait l'histoire. Et on est arrivé à un moment aujourd'hui où la culture classique a été détruite, elle a même été interdite, en fait, suite à la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai développé ça beaucoup dans mon dernier essai. C'est la question essentielle. La différence entre un homme et un animal n'est pas mathématique. On pourrait peut-être même former beaucoup, en fait, de singes à faire les mathématiques que certains font nos mathématiciens. Mais le pouvoir créateur de l'être humain qui s'exprime dans la composition classique, artistique. Regardez la composition de la musique classique ou la poésie classique et la créativité scientifique. Et j'ai souvent utilisé le cas d'Albert Einstein et la relation qu'il avait avec son violon et les conséquences dans sa créativité scientifique et dans la physique. Parce que l'essence de la créativité se trouve dans l'inspiration, pas dans les mathématiques. Un mathématicien est une personne stupide. Mais s'il organise bien les choses, s'il est inspiré, il peut voir au-delà d'une voix une force efficiente. Et c'est ça qu'on appelle la créativité. La créativité scientifique. Et le problème ici, c'est qu'on a perdu le sens de ça. Et cette tendance qui était associée à la créativité dans la population a été détruite. Et c'est ça comment fonctionne une dynamique. Et le poète anglais Shelley, en défense de la poésie, il exprime clairement. Il y a cette puissance qui est spécifiquement humaine, spécifiquement liée aux êtres humains, cette puissance de la dynamique, cette supériorité dans le caractère de l'être humain. Et les êtres humains obéissent sur la base de l'imagination. Mais il croit pas leur imagination en tant que telle, mais il la teste par rapport à ce qui est faisable dans la réalité. C'est ça la créativité. C'est ça les principes qui sous-tendent entre ceux qui vivent et ceux qui ne vivent pas. La différence qualitative entre un être humain et les animaux ou les autres formes de vie. Il y a trois principes, le non-vivant, le vivant et le cognitif, le pensant. Ça, c'est trois principes physiques universels que nous connaissons. Et donc, on doit défier notre puissance de l'imagination, comme Einstein l'a fait, jouant longtemps sur son violon. C'était plus un violoniste. Et il était happé par son imagination. Et alors, il retournait à son travail scientifique. En testant la puissance de cette imagination contre la réalité. C'est ça, c'est là où la créativité naît. Et dans tous les gens bons qui pensent comme ça, quand les gens sont suffisamment défiés Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux que ça, que ce que j'ai? Alors leur imagination commence à se développer. Et ils voient ce qui cause leur problème. Pourquoi j'ai agi si bêtement? Pourquoi j'ai fait cette erreur stupide? Mais pourquoi on a élu ce débile? Et ça, c'est le type d'inspiration. Qui fait face à l'expérience réelle de la réalité. Et on est au moment où les gens aux États-Unis, au moins 60%, ils veulent que le président et le Congrès soient éliminés. Et 80% des gens du Congrès aujourd'hui sont prêts à remballer leurs valises après les prochaines élections du Congrès si ça continue. Et c'est clair. Ils ont terrifié les congressistes en se mobilisant. On ne veut plus de ces gens-là. On n'en veut plus. C'est des traîtres. On ne peut plus leur faire confiance. C'est là où est le problème réel. Et c'est là où la solution se trouve. On va devoir faire ce qu'on doit faire, mais c'est ce qu'on va faire dans notre imagination d'abord. Et on va tester notre imagination contre la réalité. Et on va regarder nos amis, nos voisins. On va dire, c'était mon imagination. Est-ce que je suis fou? Est-ce que j'ai raison? Et l'ami va dire, oui, il va aller voir le gars suivant. Est-ce que c'est nous qui sommes... Est-ce qu'on est fou ou est-ce qu'on a raison? Et ainsi de suite. Et ce processus peut se répandre dans la population et créer un changement rapide dans la population. C'est comme ça dans l'histoire. Et mon autorité dans ce domaine, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, je n'ai pas beaucoup de compétition face à moi. Mais ce que je devrais faire est limité parce que je vois mes citoyens américains qui sont limités eux-mêmes, ils s'auto-limitent. Je vois qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Donc, je ne vais pas trop vite. Je dis, ce président, ok, on va te mettre tranquillement dans ton bureau ovale, on va te donner quelques leçons et on va te faire un programme, tu vas rester là, mais tu vas pas mettre le pays sans dessus-dessous, sinon tu vas te faire destituer. Mais si je dis, si tu fais pas ça, alors on aura quelque chose d'inévitable, un processus de désintégration, et tu devras l'assumer. Monsieur le Président, vous avez que quelques jours pour décider. Ce qui s'est passé au mois d'août, quand les 50 États américains seront en banqueroute et qui n'auront plus les moyens de payer, là, il y aurait une réaction en chaîne aux États-Unis et à travers la planète, et là, ce sera le chaos. Là, alors, quelque chose se passera. Prenez le Congrès, 80% des gens du Congrès, et barrez-vous avec eux si ça arrive.
Okay, before I go back to some of the economic questions.
Avant de revenir aux questions sur l'économie,
nous avons
eu beaucoup de questions institutionnelles, mais aussi de particuliers, au sujet de la grippe H1N1. Je vais lire deux questions brèves qui donnent la substance de toutes les questions qu'on a reçues. Première question d'un citoyen qui dit, Monsieur Larouche, ma femme vient juste recevoir la lettre de son employeur, l'hôpital de Columbia, et qui explique que tous les employés des hôpitaux doivent se faire vacciner. Et que s'ils ne se font pas vacciner, ils n'auront pas le droit de travailler après le 30 novembre. Et ce, sur les ordres du département de la santé. Ils ont commencé les vaccins en septembre, le 9 septembre. Ils doivent commencer les vaccins, mais ils ne recevront pas les vaccins avant octobre. Donc on se demande ce qu'ils font.
Most health departments are, I think, properly instructing people to be vaccinated now with the seasonal flu vaccine to provide them with some protection.
Parce qu'aujourd'hui, apparemment, on recommande aux gens d'être vaccinés avec un vaccin de la grippe saisonnière et ensuite d'avoir un vaccin H1N1 lorsqu'ils seront disponibles. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont résister à la vaccination parce qu'ils disent que ça mènera à un génocide. Alors moi, Deborah Freeman, en tant que docteur, je suis d'accord avec les recommandations du département de la santé qui recommandent aux professionnels de la santé d'être vaccinés et que s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas aller travailler. C'est une mesure de santé publique vraiment basique. Alors, des questions aussi de journalistes, un américain et deux autres étrangers. Donc la question du journaliste américain est la suivante. Monsieur Larouche, avez-vous considéré la possibilité, comme de nombreuses personnes semblent croire, que la pandémie de grippe pourrait provenir d'un laboratoire dans le but d'exercer un contrôle de la population à cause de l'effondrement du système? C'est un peu trop simpliste. Ce genre de choses est possible. Si ce virus se diffuse, il faut prendre l'antidote. Aujourd'hui, on manipule l'opinion publique pour induire un état de paranoïa, pour qu'il se demande est-ce que je dois le prendre, est-ce que je ne dois pas le prendre, est-ce qu'ils veulent m'empoisonner. Que veulent-ils me faire? La première question qu'il faut se poser, c'est qui il? C'est qui? C'est le gouvernement américain? Bon, bah attendez-vous au pire alors. Surtout en ce moment. Non, il ne faut pas rentrer dans ce genre de manière de penser. Parce que dans ce genre de cas, il faut prendre la meilleure option. Si la maladie est là, et elle est là, alors il vaut mieux trouver un antidote très rapidement et ne pas se faire de soucis sur l'antidote. Mais c'est une rumeur qui était diffusée que c'était une opération synthétique. Et ça a été fait pour accentuer la diffusion de la maladie. Car si les gens ne se vaccinent pas, la maladie va se diffuser. Et plus de gens mourront.
So it's that's the kind of question.
That's the kind of
question. So in a case like this, don't let your paranoia rule. Enough paranoia.
Donc dans ce genre de cas, ne vous laissez pas dominer par la paranoïa.
We don't need any more. Forget it.
And this question comes from someone who serves as the economist for the National Governors Association. And he says,
quelqu'un de l'Organisation Nationale des Gouverneurs qui pose cette question. Comme vous le savez, la Constitution d'État américain requiert un équilibre budgétaire impératif. Mais avec la chute des revenus fiscaux, les États sont obligés de procéder à des coupures budgétaires. Ils licencient les gens, ils reportent des projets, ils augmentent les taxes, etc. Maintenant, des gouverneurs qui doivent être réélus prochainement, qu'ils soient démocrates ou républicains, font face à des sondages très négatifs, à des défaites certaines, parce qu'ils sont obligés de faire ces coupures budgétaires. Donc ce que nous appelons à faire, je ne sais pas si tu soutiens, si vous soutenez cela, c'est une intervention fédérale d'urgence pour fournir des aides directes aux États. Certains pensent que c'est un peu trop radical, que ça va s'ajouter au déficit public fédéral. Mais mon idée n'est pas plus radicale que celle de Nixon qui proposait de partager le revenu entre les États. Et je ne pense pas que ce soit radical de toute manière parce que ça permettra en fait d'éviter les coupures budgétaires. Mais il sera impératif que s'ils reçoivent ces aides, ils s'engagent à respecter leur programme de dépenses avant qu'ils aient procédé aux coupures budgétaires. Il faudra exiger que les employés publics licenciés soient réembauchés et que les projets annulés soient relancés. Si on ne fait pas ça, tout l'état des États va empirer.
The fact is that the Obama stimulus package doesn't come close to even replacing 20%.
Et aujourd'hui, le plan de relance d'Obama ne peut absolument pas combler le déficit des États, ne remédie pas du tout à ce problème.
Some can argue that the primary benefits would be macroeconomic. Saving jobs, preventing program cuts, and making sure that states don't worsen consumer purchasing power by regressively raising taxes in a depression. But there's also a secondary benefit in preventing a further erosion of trust in government.
Alors dans ce plan, on aurait beaucoup d'avantages macroéconomiques qui empêcheraient de faire empirer la crise, mais aussi on accroîtrait la confiance qu'il y a dans le gouvernement. Ce serait symbolique et capital.
As public employees are laid off, government's basic capacity to do its job is wrecked. Just as an example.
Aujourd'hui, avec ces coupures budgétaires, les États ne peuvent plus exercer leurs prérogatives. Les gens n'ont plus accès à la santé, n'ont plus accès à tout un tas de services sanitaires, par exemple des services à la personne, des services à domicile, mais aussi au niveau de l'éducation, de la pédiatrie.
Another example, in Alabama, in Birmingham, Alabama.
Il y a aussi cet exemple dans l'Alabama, à Birmingham, où la municipalité a été obligée de licencier les employés de la cantine de la prison, ce qui a permis de gagner de l'argent. Mais maintenant, ils ne savent pas comment ils vont nourrir les prisonniers.
That the city of Birmingham no longer has the necessary funds to bury.
Et on s'est rendu compte aussi que la ville de Birmingham n'avait même plus les moyens d'enterrer ses morts.
The strategy of emergency revenue sharing would seem to be low-hanging fruit for the Obama administration. It's a great bipartisan remedy. Republican governors.
Ce remède aiderait grandement Barack Obama. C'est un remède bipartisan.
Democrats.
Et il aurait du soutien tant chez les républicains que chez les démocrates.
A one Washington D.C. journalist that we named the bill for Richard Nixon. But I'm wondering if.
Je vais me proposer un journaliste qu'on appelle ça la loi Nixon. Je me demandais si tu soutiendrais ce type d'initiative. Oula, non. Non. Ce serait une pure perte de temps.
This is nonsense. We have the thing that's going to decide entirely from the top down the future of this nation is what is done.
Parce que ce qui va déterminer l'avenir de ce pays, c'est ce qu'on fait au sujet de la présidence.
You're wasting your time.
Ne parlez pas du reste. Vous perdez votre temps. Si on ne change pas la présidence, vous n'avez aucune chance de réussir quoi que ce soit d'autre. Voilà la question en face de nous. Soit on remet sur pied cette présidence et on aide ce pauvre Obama tel que je l'ai proposé aujourd'hui, soit on ne pourra rien faire. Parce que si on ne fait pas ça, alors peut-être vous mourrez. Donc vous devez faire ce qu'il y a à faire pour changer cette présidence. Car si vous ne le faites pas, il n'y aura rien d'autre à faire. Vous êtes condamné. Donc vous devez apprendre un petit peu. Parce que 80% des gens protestent contre cette présidence, mais les congressistes continuent à accepter cette présidence. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes fini. On ne peut pas se permettre d'aller plus loin. Arrêtez de parler d'alternative. Si vous ne changez pas la présidence, il n'y aura pas d'alternative et on perdra le pays.
Because the world's going into the deepest crisis you ever saw. Every other suggestion is a damn waste of time.
Toutes les propositions autres que celles que j'ai mis sur la table ce soir pour changer la présidence sont une perte de temps.
Okay, I am going to ask Lynn to answer two more questions. One.
Je vais demander à Monsieur Larouche de répondre à deux dernières questions.
Policy, and the other is a different kind of question. This question comes from a fairly well-known economist and author.
La première question nous vient d'un économiste et écrivain très connu, qui travaille avec le groupe de Stanford. Monsieur Larouche, il y a 25 ans, je faisais partie du débat sur la politique industrielle. Et bien sûr, j'étais dans la faction perdante. Il n'y a aucun président démocrate ou républicain qui ait pris en considération s'il était important ou pas que les États-Unis aient une industrie de première classe. Et donc nous sommes devenus une économie de services.
Most economists ridiculed industrial policy on the grounds that
la plupart des économistes se sont moqués de tout ce qui parlait de politique industrielle pendant des années. Et ils ont dit que les marchés s'occuperaient de la chose et feraient les investissements appropriés pour l'économie. Et aujourd'hui, effectivement, tous les services qu'on a, c'est des services financiers qui, en fait, ont gonflé une grosse bulle. Et ce système libéral a commis bévue sur bévue.
Except that most of them are failing banks. A reading of American history reveals that the U.S. has had industrial policies all along, and it began.
Si on regarde l'histoire des États-Unis, nous avons eu une histoire industrielle très riche en permanence. Il y avait Hamilton, le premier secrétaire au Trésor, sur la politique des manufactures.
The space program of John F. Kennedy.
Jusqu'à Kennedy et son programme spatial. Aujourd'hui, les investissements du gouvernement dans la biotechnologie, depuis Hamilton jusqu'à JFK, nous avons eu une politique industrielle.
Blackstone and Harrison, the deindustrialization of America. Steve Cohen and John Zeissman, manufacturing matters. You look at them today, and they look prophetic. We all, including you, Mr. LaRouche, lost the political argument back then, but we were right all along.
Lorsque nous avions ce débat sur la politique industrielle il y a plusieurs années, nous avons perdu, mais nous avions raison.
The fact is that unless we address this directly,
et aujourd'hui, à moins de prendre en main cette question directement, je ne vois pas du tout comment on pourrait sortir de cette crise. Aujourd'hui, on ne parle que de politique bancaire, de dette financière, mais jamais de ce qu'on compte faire pour notre pays et pour le monde. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. On a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Mais là, on touche à quelque chose. Le dernier initiative des États-Unis pour sauver son âme était au moment où Kennedy a fait son discours, où il a dit qu'on allait faire cette chose, non pas parce qu'elle était facile, mais parce qu'elle était difficile. C'était le programme spatial, l'alunissage. Depuis lors, on a eu une division dans l'économie. Au moment où Kennedy a fait son discours, l'industrie aérospatiale était sur le point de mourir, était mal en point. Mais il l'a ressuscité. Mais ensuite, particulièrement avec Nixon, tout cela a été détruit. Mais notre programme spatial avec Kennedy a engendré les plus grands accomplissements économiques de notre histoire. Mais à partir de 67-68, tout cela a été détruit. Parce qu'on envoyait des hommes sur la Lune, mais on était déjà en train de perdre des technologies qui avaient été développées dans le programme spatial.
And you will find there's still today bits of technology kicking around in some private laboratory here or there, where it left in a dustbin from that period. It's still around.
Et aujourd'hui, il nous reste encore quelques restes de cette période dans certains laboratoires. Aujourd'hui, les bons économistes ne croient pas beaucoup en ce qu'on appelle l'économie. Il faut parler en termes concrets au sujet de l'économie.
Alexander Hamilton made with manufacturers back in that time. Infrastructure, agriculture, manufacturing, that's still the basic categories. Everything else is subsidiary. Now,
l'industrie, l'agriculture, l'infrastructure sont les fondamentaux de l'économie. Le reste, c'est secondaire. Mais ce qui est clé, c'est la science physique.
Science has many manifestations. It has the process of discovery, the process leading to a process of discovery, and the spillovers.
Dans la science physique, il y a la découverte, il y a le processus qui vous mène à la découverte.
Through the process of engineering and so forth, down the line.
Et ensuite, il y a l'application de cette découverte.
The main line is an increase in the energy flux density of the sources of power.
Mais ce que doit permettre le progrès scientifique, c'est l'accroissement de la densité de flux énergétique utilisée dans l'économie.
From burning of coal to coke to petroleum and natural gas, then nuclear power.
Prenez l'image de cette transition qu'on a fait entre le charbon, le pétrole, le nucléaire, ensuite. Pensez notamment aux moteurs électriques qui ont été inventés à une époque qui était une révolution dans la productivité au début du siècle dernier. Donc il y a ce type de révolution technologique qui se répercute dans tout le processus industriel.
Belt-driven machines, and now you had the, or even the electrical machine, which power, so the individually powered machine, under Alvin Kerr. And this was a big revolution at that time. They made possible all the whole machine tool, and the whole machine tool, and over this revolution, by result of this type of
revolution. Et à cette époque, toute l'industrie de la machine outil a été révolutionnée.
Scientific revolutions in technology.
And sometimes il nous faut des révolutions scientifiques pour engendrer ces révolutions technologiques. Il faut des découvertes fondamentales, essentiellement.
And you put a science driver behind this thing. Can anybody come up with a better way?
Et pour ça, il est capital d'avoir un projet à long terme qui guide la recherche et qui provoque les découvertes. Donc si on a un projet national, une mission, une grande orientation pour notre économie, alors nous ferons de grandes révolutions. C'est comme ça qu'on a fait des révolutions dans le passé. Parce qu'un niveau de technologie donné a une limite. Jusqu'où pouvons-nous aller avec un certain niveau de technologie? C'est une limite qu'il faut dépasser. Donc nous devons avoir un programme spatial. Avant Nixon, on est allé sur la Lune, et après Nixon, fini. Il a tué la Lune. Il nous a donné des clairs de lune plutôt que la lune. On a tué notre programme spatial. Et aujourd'hui, il est en lambeaux. Donc nous avons devant nous la perspective d'industrialiser la Lune. Ça a été conceptualisé au début des années 70 et 80 par un de nos amis, un de nos associés. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que si on avance dans l'espace, on va devoir accroître notre niveau technologique sur Terre. Donc, l'exploration spatiale va tirer vers le haut le développement sur la Terre. Et ça, ça bénéficiera à toute l'humanité. Parce qu'on doit aussi faire face à l'épuisement des ressources. Parce que les matières premières les plus riches sont utilisées très, très vite, sont épuisées les premières. Donc pour compenser, il faut des innovations technologiques. Et toute personne qui est compétente en économie et en sciences comprend que nous devons lancer un projet pour explorer et développer la Lune dans la continuité de Kennedy, mais pas juste aller sur la Lune, mais l'industrialiser. Ce sera une industrie en grande partie automatique qui sera contrôlée depuis la Terre. Parce que c'est la faible gravité n'est pas très bonne pour la santé humaine à long terme. Donc on la contrôle depuis la Terre. Et ensuite, ça, on aura la base pour aller explorer Mars. Mais il ne faudra pas le faire en envoyant un vaisseau qui navigue pendant 300 jours pour aller sur Mars. Et ça, j'aime pas trop cette idée-là. Donc nous devrons avoir des vols beaucoup plus rapides. On pourra utiliser l'hélium-3 qu'on trouve sur la Lune, qui a été déposé par le Soleil. Et l'hélium-3, c'est très utile pour voyager dans l'espace. Parce que ça peut être un très bon carburant. Et avec de l'hélium-3 et une technologie de fusion, on pourrait avoir un vol avec une gravité de 1 depuis la Lune jusqu'à Mars. En quelques jours. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas encore inventé ça. Mais si on pouvait voyager entre la Lune et Mars avec une gravité normale en quelques jours, bah alors il faut le faire. On va mettre tous les moyens à notre disposition pour réaliser cet objectif. Et parce que tout ce qu'on fera pour aller sur Mars va changer ce qui se passe sur Terre à cause des progrès qu'on devra faire.
We need to have, and there are a lot of people about interested in this. We've got 10 nations now which are committed to a moon development project.
Il y a aujourd'hui 10 pays qui sont engagés dans un projet pour développer la Lune.
And I'm committed to a Mars arrival project.
Et moi, je suis engagé à mettre de l'avant ce projet d'exploration de Mars. C'est déjà ce que je mettais de l'avant dans les années 80, dans ma campagne présidentielle de 88. Alors, c'est pas moi qui vais y aller, évidemment. Je crois pas que je suis dans les bonnes conditions physiques pour y aller. Hein. C'est pas là où je serais le meilleur. Mais d'ici 20 ou 30 ans, on pourra tout à fait avoir accompli un développement de la Lune. Et on pourra aller explorer Mars. On ira voir ce qui se passe là-haut. Et ainsi, on changera la conception que l'homme a de lui-même. Parce qu'on va se concevoir comme un être humain dans le système solaire. Plus un être humain sur Terre, mais dans le système solaire. On va voir, on est sur la Terre, on est sur la Lune, on va sur Mars, on peut voyager. Ça, ça change la vie humaine. Et toutes les technologies développées pour accomplir ce projet vont complètement bouleverser l'économie sur Terre. Si on va sur Mars, on va, par exemple, complètement bouleverser notre conception de ce qu'est l'agriculture. Mais avant tout ça, il va falloir mettre ce type-là qui est dans le bureau ovale sous contrôle parental, sous supervision adulte. Il va falloir fortement l'induire à faire ce qu'il faut et faire en sorte aussi que les Britanniques ne puissent pas l'assassiner.
And that will give us, but we've got to think beyond that. Because I've got people who are now in their 20s. Believe it or not, we still have produced babies. We still have people in their 20s.
Et on a avec nous des gens dans leur vingtaine. Qui vivront jusqu'à 80 ans. Que vont-ils faire jusqu'à cet âge-là? Eh bien, ils sont les porteurs de ce projet. Ils sont les personnes qui vont développer ce projet. Parce qu'on doit penser aux générations futures. On doit penser à nos petits-enfants et nos grands-petits-enfants. Et que quand on sera vieux, eux-mêmes pourront explorer Mars. On veut penser au moins à une génération en avance, c'est 25 ans, jusqu'à 4 générations, c'est 100 ans. Que va-t-on faire pour ces générations futures? Donc nous devons penser à ce que nous faisons pour rendre possible la vie de nos petits-enfants et des générations prochaines. Donc nous devons nous projeter dans l'avenir et demander ce que nous allons être, ce que nous allons faire. Quel monde voulons-nous? Dans quel système solaire voulons-nous vivre? Donc on ne fait pas des listes de trucs à faire. Non, il faut une mission pour toute l'humanité. Ce n'est pas une question d'emploi, une question de salaire. C'est l'humanité qui compte. L'homme n'est pas un animal. Est-ce que nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour promouvoir cette différence? Qu'allons-nous faire de l'espèce humaine? Voilà la question qu'il faut se poser. Nous devons décider à quoi sert notre vie. Pas juste vivre bêtement, mais penser au but qu'elle a pour le futur. Pourquoi avoir des enfants? Pourquoi élever des enfants? Dans quel but? Pourquoi devrait-on se souvenir de nous dans plusieurs générations? Pourquoi est-ce que la prochaine génération nous respecterait? Qu'allons-nous faire pour gagner ce respect? Pour gagner notre identité humaine? Donc, en pensant du point de vue de l'exploration spatiale, on ne parle plus de politique industrielle, de politique agricole, on parle de l'humanité. On parle de génération future. On parle d'un vecteur de progrès scientifique. On parle de ce qui va faire fleurir la créativité dans les esprits humains. Il faut arrêter avec les catégories de valeurs économiques et toutes ces choses-là. C'est ennuyant. Maintenant, parlons d'aller sur la Lune. Ça, c'est pas chiant, ça. Nous devons ensuite réaliser toutes les étapes technologiques et scientifiques pour y arriver. Mais commençons par dire, par choisir cette mission. Et si on choisit cette mission, vous verrez, ça marchera. Vous verrez, Monsieur le Président, vous devez changer vos habitudes, mais ça vous fera du bien. Je peux vous garantir, ça changera l'avenir. Vous avez juste un peu à changer, ça ne fera pas trop mal. Vous serez assis dans votre bureau, ça, pas grand chose à faire. Et après, ça fera que votre présidence aura fait de grandes choses. Donc ça ne sera pas cher pour vous. Et on ira sur Mars. Alors peut-être vous ne voulez pas aller sur Mars, et c'est vrai, peut-être les gens là-bas vous aimeraient pas trop. Mais on ira. Donc, nous devons arrêter de parler de politique industrielle en tant que telle. Nous devons choisir une mission. Nous devons prendre une décision. Nous devons nous projeter dans l'avenir. Sinon, nous n'avons pas d'avenir.
Okay, before I ask the last question, I apologize to all of you who submitted good questions. To those of you who submitted crazy questions, I apologize.
Pour ceux d'entre vous qui posent des questions folles, je ne les poserai pas ici, mais on a beaucoup d'autres questions. Institutionnels, des gens ici, des gens partout dans le monde, et je ne pourrais pas les prendre toutes. Et je pense que, j'espère que vous nous pardonnerez pour ça, mais M. Larouche a couvert vraiment beaucoup de champs auxquels les gens se posent des questions. Donc la dernière question, je pense que elle est intéressante. C'est un des leaders du groupe de Stanford avec qui nous avons travaillé très proche depuis quelques mois. Et la question est, Monsieur Larouche, tu as bien établi ton autorité sur les questions de prévision économique. Maintenant, dans ces moments que nous vivons, ça demande d'être un génie pour remettre en place le standard de Glass-Steagall, de séparation des banques d'épargne et des banques d'affaires, comme Roosevelt l'avait fait pour sortir de la dépression à l'époque. Mais tous les gens qui regardent de plus près vos découvertes et vos écrits, votre théorie économique, ont une compréhension bien plus profonde, non seulement de l'histoire, qui est vraiment pas commune dans notre champ économique, mais aussi en physique, en mathématiques, sur la musique et d'autres domaines de la science. Donc, et un sens d'humour se développe également malgré la dureté de la crise actuellement. Donc ça met la barre très très haute. Mais ça a laissé certains d'entre nous un sentiment plutôt inadéquat. Pour d'autres, qui ont compris ce que vous disiez, même on a pu se rendre compte que ça les énervait au plus haut point. C'est comment gérer cette situation? Quel est ton secret pour gérer? Et ma question, c'est qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner?
I think the secrets are expressed largely in what I write. When I always
le secret est dans ce que j'ai écrit dernièrement. Et plus j'écris, à chaque fois je me rends compte que je laisse des choses en dehors de mon écrit et je me rends compte que j'ai encore plus de travail à faire après que j'ai travaillé. La meilleure chose que vous pouvez faire, ne soyez pas une créature de votre génération. Vous devez regarder aux générations à venir pour comprendre le présent. Donc vous devez regarder aux autres générations qui naissent, qui se développent. Et ce que j'ai fait dans ces derniers temps. Et au moment de la présidence Clinton, je me suis posé de plus en plus la question de comment créer une nouvelle génération en dehors de celle des baby-boomers. Parce que la génération des baby-boomers avait deux aspects. C'est déjà ce qu'on soit comme une génération, mais qui... qui était mis par la fin de la guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand je suis rentré de mon service à l'étranger en 1946, j'ai vu le désastre. Et beaucoup de soldats sont venus me voir en 1945, quand j'étais encore en Inde. Ils sont venus parler avec moi un soir. Ils m'ont posé une question qui m'a surprise à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant que le président Roosevelt est mort? J'ai une réponse très simple. Nous avons vécu sous la direction d'un grand président. Nous avons affaire maintenant à un très petit garçon. Et je suis effrayé pour nous. J'ai eu raison. Et on est rentré dans une période maléfique sous l'influence du Congrès pour la liberté culturelle, qui est une organisation nazie, qui m'a toujours haï et que j'ai toujours haï tout le mouvement existentialiste. Et dans une situation de plus en plus sécuritaire, où on a catégorisé les gens de ma génération qui revenaient de la guerre. Ce qu'on appelle la sécurité nationale aujourd'hui, beaucoup ont travaillé là-dedans. Et c'était, on aurait pu appeler l'unité de lavage de cerveau. Et beaucoup de gens, pour garder leur boulot, ont fait beaucoup de compromis. Et ils ont commencé à se communautariser. Ils ont dressé leurs enfants, la génération des baby-boomers. Ils ont dit à leurs enfants, n'ayez jamais d'idées différentes des autres.
Et puis, came 1957, a recession.
Et en 1957, la grande récession et l'arrogance de cette génération qui élevait ses enfants, ils sont devenus effrayés. Pas par des questions sécuritaires, mais la peur de perdre leur possession.
By 58, it was well defended. I was then an executive in a consulting firm.
Et moi, j'étais à l'époque conseiller économique dans une industrie. Les gens venaient me voir, demandant des emplois, mendiant des emplois. Et les enfants de cette génération, qui sont nés dans ces familles, il y a eu un changement à l'époque dans la culture, particulièrement en Europe et aux États-Unis, qui s'est éloigné de la culture classique. Si vous connaissez la culture classique, c'est l'étincelle de la créativité scientifique. Et comme je l'ai dit, Albert Einstein en est un exemple important. C'est la culture classique, la puissance de notre imagination qui répond aux questions fondamentales dans la science physique, l'inspiration même de la créativité. Tout ça a disparu. Et ces jeunes sont arrivés dans les universités. Et ils sont allés dans les meilleures universités des États-Unis. Et ils se sont pris pour les rois du monde, nous sommes les hommes parfaits. Parce qu'ils avaient une peur existentielle, en fait, de perdre leur travail, ou que leur famille avait. Donc ils étaient en danger. Et ils se sentaient comme une élite. Et ils avaient réussi à faire en sorte de ne pas pouvoir faire leur service militaire parce qu'ils étudiaient à l'université. Jusqu'au jour où on a dit, c'est terminé. Aujourd'hui, tout le monde fait son service militaire et tout le monde va à la guerre. Et là, leur existentialisme conditionné, même s'ils étudiaient la science à l'époque, ils étaient devenus existentialistes. Et en 1968, le changement, après le 1er mai 1968, la première étape de l'effondrement du système monétaire américain. Et ils sont devenus comme des chimpanzés. Des macaques. Cette génération de baby-boomers est devenue un cauchemar. Ils ont viré toutes leurs fringues, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et pour ça, ils ont eu les meilleures positions dans les institutions de nos élites. Surtout dans l'administration Carter. Et ma génération a commencé après à se retirer, aller à la retraite. Et abandonner et commencer à devenir également lavé du cerveau par cette culture anti-technologique, anti-scientifique. Et en 1997, on a eu une grande récession. La panique. Et on a fait n'importe quoi en termes de politique économique. Et c'est cette génération des baby-boomers les pires années, en fait, sous la présidence Bush. Et en 2000-2001, c'était la fin. On a eu Bush. Et à ce moment-là, je me suis pas mal concentré sur la nouvelle génération. Parce que la génération des baby-boomers, ceux qui étaient nés après 1945-46, mais c'était les pires d'entre eux qui étaient aux positions les plus élevées. Et l'effet sur la population était de détruire la dégénération suivante. Ça avait un effet sur l'attitude et la vie de tous les autres. Et quand les gens passaient leur quarantaine, ils commençaient à devenir effrayés. Si les conditions ne sont pas favorables. Dirigeant la société, ils ont commencé à essayer d'imiter ceux qui pensaient être ceux qui remportaient le plus de succès. Des gens comme Mark Rudd, qui avait une influence sociale majeure. Et l'acceptation de la société anti-nucléaire, anti-industrielle, a complètement détruit ce qui restait des gens dans cette génération. Et étant la personne que je suis, J'ai dit ouais. Ok. Donnez-moi la génération suivante.
In that generation. So that's 2001, that period. So
et en 2001, c'est la période-là. C'est dans ma campagne présidentielle. On a commencé à faire des contacts sur les campus, trouver des gens dans la nouvelle génération. Ils avaient des problèmes que leurs parents n'avaient pas, mais d'autres problèmes. Mais c'était une génération qui était capable de fournir une succession à l'aspect tragique de la génération dirigeante actuelle. Et je me suis de plus en plus engagé à ça. Pour sauver la civilisation dans son ensemble, et sauver la civilisation dans son ensemble, il fallait faire quelque chose. Donc on doit aller chercher la génération qui n'est pas aussi désespérée, démoralisée que la génération des baby-boomers. Et c'est là qu'on peut même réveiller même des très vieux ou des gens de la génération des baby-boomers en ayant des jeunes qui viennent les bousculer.
I go back to about 6,000 years ago in terms of my fascination in history. And so I look at mankind.
Je suis passionné par l'histoire. L'humanité me passionne. On peut remonter des milliers, 6000 ans, plus que ça en arrière. Tous les problèmes de l'humanité, ça m'intéresse. Et j'ai toujours regardé ces problèmes d'un point de vue de la créativité. Cette créativité qu'aucun animal n'a. Comment la créativité individuelle humaine, comme elle s'exprime dans la composition artistique classique ou dans la science physique, depuis les pythagoriciens, Platon, tous ces gens-là. Et c'est toujours ça que j'ai regardé. Et je me suis dévoué au trésor de l'humanité. Et la défense et la promotion de ce que je considérais comme les trésors de l'humanité. J'aime regarder à travers les autres cultures pour mieux comprendre la culture européenne et comprendre le secret même de notre propre culture et le ramener, le faire vivre. Voilà pourquoi je travaille. Voilà qui je suis. Je ne suis pas un carriériste. J'ai pas de carrière. Je suis juste qui je suis avec mon expérience de la vie. Et je dis des choses que j'estime sont importantes, comme aujourd'hui. Tout cela nous amène à la fin de cet événement. Je voudrais vous demander de me rejoindre pour dire à M. Larouche joyeux anniversaire. Vous venez d'assister donc à la conférence de M. Larouche, donc de ce 8 septembre 2009, intitulée « La mort de l'Empire britannique », dont la traduction a été effectuée par M. Périmony Sébastien et M. Bertrand Buisson. Voilà, cet événement est maintenant terminé. Bonne soirée et agissez par rapport à ce que vous y aviez entendu. Au revoir.